L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce soir. Puis on veut te remercier pour le privilège qu'on a d'être rassemblés ici, en ton nom. On te remercie, Seigneur, pour ton onction qui repose sur notre frère Jonathan, qui va bientôt apporter la parole, partager les choses que tu as montrées. Et on prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux et ouvrir nos oreilles pour recevoir les choses qui viennent de toi. On veut vraiment passer du bon temps avec toi, Seigneur Dieu. On veut s'approcher de toi, puis on te remercie parce qu'on va sortir de cette place plus bénie que lorsque nous sommes arrivés. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Donc, on peut accueillir chaleureusement maintenant Jonathan qui va venir nous enseigner.
Merci beaucoup, pasteur Joël. Merci pour l'invitation, pour le pasteur, son épouse, puis toute l'équipe, dans le fond. C'est très gentil. Je suis super content d'être ici. C'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Disons, depuis que, comme le pasteur a parlé, depuis que le dernier vidéo est sorti, les choses ont déboulé là, un peu rapidement, puis il y a plein de monde qui ont commencé à prendre contact avec nous pour en savoir plus, puis savoir un petit peu c'était quoi cette affaire-là. Fait que, non, c'est bien, puis je suis sûr qu'on va être bénis ce soir. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde que ça, mais je vais juste vous partager, dans le fond, des témoignages qu'on a vécu dans les rues, puis aussi un peu où est-ce que ça a commencé pour moi, parce qu'il faut tout commencer quelque part. Puis je n'irai pas en profondeur dans mon témoignage personnel, je vais y toucher un petit peu. Est-ce qu'il y en a ici qui m'ont jamais vu, ils n'ont aucune idée je suis qui, à part mon nom? Fait que comme le pasteur Joël a dit, je m'appelle Jonathan Bouchard, je suis comme le frère Bouchard junior. J'ai beaucoup d'années de retard sur mon père, là, mais c'est ça. Évidemment, mes parents ont toujours été chrétiens depuis ma naissance, fait que je suis né dans l'Église, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai vieilli dans l'Église, mais ça fait pas de nous nécessairement un chrétien pour autant. Puis j'ai fait mes expériences comme tout le monde. Mais voyez-vous, moi, je vous dirais que je ressemblais plus à un scribe puis à un pharisien. J'avais appris exactement comment tout bien faire aux yeux des gens, mais Dieu regarde dans notre cœur. Puis avoir de l'air d'un bon chrétien, ça fait pas nécessairement de nous nécessairement un bon chrétien. Et puis, pour couper ça vite, il est arrivé un jour, j'ai 30 ans aujourd'hui, mais il y a 2 ans, quand j'ai eu 28 ans, il est arrivé un jour où j'ai regardé ma vie, puis je me suis dit, quel fruit t'as porté si vraiment tu dis que t'es un chrétien? Parce qu'aller dans l'église toute notre vie, ça change rien. Aller au garage, ça fait pas de nous un char. Aller au McDo, ça fait pas de nous un Big Mac. Dieu regarde au cœur vraiment, puis il regarde à une décision de cœur vraiment. Puis c'est ça, quand j'ai eu 28 ans, j'ai fait une rétrospective, puis j'ai vu qu'une vie transformée, ça produisait des fruits, puis il n'y en avait pas dans la mienne. Fait que j'ai décidé pour la première fois de ma vie de crier à Dieu avec mon cœur, puis Dieu entend quand son enfant a crié, puis Dieu est venu dans ma vie, puis il a transformé ma vie. Puis évidemment, j'étais pas un gros pécheur, j'ai jamais été dans la drogue, d'un terme humain, j'ai jamais touché à la drogue, la boisson, des choses qui sont apparentes aux yeux des hommes parce que j'avais appris à bien vivre d'une manière chrétienne. Je savais comment louer dans l'église, je savais comment parler avec des chrétiens, puis je savais comment parler avec des pécheurs aussi, j'avais les deux mondes. Puis j'étais quand même assez doué pour le faire. Fait que quelqu'un qui voyait pas mon cœur pouvait pas nécessairement le savoir. Mais j'ai toujours aimé Dieu sincèrement dans mon cœur. Mais vous savez, croire en Dieu, c'est pas ça qui fait tout. Parce que Satan et les démons croient en Dieu, eux autres aussi, puis ils n'ont pas la vie éternelle pour autant. Donc, quand j'ai décidé de donner ma vie à Dieu puis d'y aller à fond, Dieu a mis le désir dans mon cœur, la pensée à quoi ça pouvait ressembler quand tu donnes ta vie pleinement pour la cause, quand tu te donnes à fond. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Tu es tout à Dieu ou tu n'es pas à Dieu pantoute, ça ne donne rien d'y aller à moitié. S'il y a 1% de ta vie qui n'est pas à Dieu, Satan a de l'accès dans ce pourcentage-là, puis tôt ou tard, il va finir par te tirer vers le bas. Fait que je me suis donné pleinement à Dieu, puis Dieu a commencé à travailler dans ma vie puis à me renouveler. J'avais beaucoup de connaissances intellectuelles de la Bible puis de la parole parce que, évidemment, pour moi, en grandissant, c'était plus naturel d'être dans une église 6 jours/semaine qu'être à l'école. J'étais toujours dans l'église, j'avais toujours la parole, je connaissais des milliers de versets sans nécessairement savoir où ils sont dans la Bible, mais j'avais quand même une base. Mais il y a une différence entre connaître la parole puis la croire puis agir dessus. Puis c'est ça. Donc, Dieu a commencé à faire du ménage dans ma vie, puis je me suis approché de lui, j'ai cherché sa face, puis moi, je suis quelqu'un de radical quand je fais les choses. Je suis long à me décider, mais quand je me décide, j'y vais, comme on dit en anglais, « all in ». Je suis vraiment allé « all in ». J'ai coupé tout dans ma vie, J'ai coupé contact avec tous les gens, j'ai coupé la télé, j'ai coupé toute la musique à 100%. Je me suis enfermé avec la Bible du matin jusqu'au soir quand je n'étais pas au travail. Puis j'ai commencé à renouveler mon intelligence, puis à chercher Dieu, puis j'ai pu progresser comme ça. J'ai encore beaucoup de progrès à faire quand on regarde mon père. Je suis loin d'être rendu avec son expérience puis tout. Mais Dieu, il regarde à notre cœur, puis il regarde à notre obéissance. Dieu n'agit pas sur la connaissance, il agit sur l'obéissance. Puis c'est ça qui est le principal problème dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est que la majorité des chrétiens ont beaucoup trop de connaissances pour leur obéissance. S'ils obéiraient aux bases fondamentales, il y aurait beaucoup plus de fruits qui seraient portés, puis le royaume de Dieu avancerait à une vitesse qui est différente de ce qu'on voit généralement aujourd'hui. Donc c'est ça. Dieu a commencé à travailler dans ma vie, puis pour ramener ça jusqu'à l'année passée, au mois de juillet environ 2014. J'étais en jeûne puis en prière chez nous, puis je criais à Dieu, puis comme beaucoup de chrétiens, j'étais sincère, puis je priais à Dieu pour le réveil parce que c'est notre désir, on veut voir les choses bouger au Québec, évidemment dans le monde entier, mais quand on est Québécois, on dirait qu'on est comme une classe à part, puis qu'on aime notre nation, on veut que le Québec bouge parce qu'il n'y a pas eu gros de move de l'esprit au Québec de répertorier, puis on veut que les choses changent. Puis je criais à Dieu sincèrement, j'ai dit « Seigneur, envoie le réveil », puis je priais, puis je jeûnais, puis j'ai dit « Dieu, tu sais, j'ai suivi mon père pendant des années durant les croisades, puis Dieu est fidèle, puis il agit seulement que les statistiques disent qu'il y a environ 1% de chrétiens au Québec sur une population d'au-dessus de 7 millions, ça, c'est pas acceptable. Puis ce 1%-là, on sait pas réellement combien il y en a qui sont nés de nouveau, c'est juste des chiffres. Puis ça, c'est pas normal non plus. Fait que j'ai dit, il faut qu'il se passe quelque chose, Seigneur, j'ai dit. Ta parole nous dit que la moisson est grande puis qu'elle est prête. Elle était prête il y a 2000 ans, il n'y a rien qui a changé aujourd'hui. S'il y a de quoi être encore plus prête, c'est jamais à Dieu à changer, c'est toujours à nous. Quand les choses ne bougent pas à la vitesse qu'on voudrait qu'ils bougent, ce n'est pas parce que Dieu retarde, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Puis j'ai dit, Dieu, je suis sincère, s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris ou que le corps de Christ en général n'a pas compris ou il y a une réalité de l'Évangile puis de la vie chrétienne que je n'ai pas saisie, j'ai dit, révèle-nous-les. J'ai dit, peu importe comment j'ai vu mon père, ça fait des années qu'il fait des croisades, puis comme je disais, Dieu est fidèle, mais les âmes ne rentrent pas comme ils devraient rentrer. On dirait que peu importe la publicité qui est faite, les différentes façons, que ce soit sur Internet, la radio, la télé, ça coûte beaucoup de sous, puis on voit des résultats, mais on voit peu de résultats de ça. Fait que j'ai dit, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui cloche. Et j'ai dit mot pour mot, j'ai dit « Montre-nous comment amener les âmes dans les croisades puis dans l'Église, comment amener le monde à l'Église. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? » Puis Dieu m'a entendu. Tout le monde dit « Dieu m'a entendu » parce que Dieu entend la prière du cœur. Amen. Le lendemain que j'ai fait cette prière-là, j'étais sur mon laptop puis je suis tombé sur des vidéos d'un homme qui s'appelle Todd White. Peut-être les plus jeunes vont le connaître. Aujourd'hui, il commence à être de plus en plus connu. Puis, en fait, il est très connu auprès des jeunes de mon âge et en descendant. Mais moi, comme j'ai dit tantôt, j'ai grandi dans l'Église. J'ai passé ma vie dans l'Église. Puis, j'avais jamais entendu parler de cet homme-là à venir jusqu'à l'an passé. Puis, je faisais aucune recherche sur lui. J'étais sur une page tout simplement. Puis, son visage passait sur la page. Puis, à chaque fois qu'il passait, il y a une voix qui me disait « Va voir. » Ça a fait ça 4-5 fois collé. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné, puis je suis allé voir. Puis j'ai découvert les vidéos. Ceux qui ne le connaissent pas, Todd White, c'est un évangéliste, mais c'est quelqu'un qui apporte ce qu'on connaît dans l'Église, la puissance de Dieu, la guérison, la délivrance, le prophétique, tout ce qui est bien connu dans le corps de Christ, on va dire dans les églises évangéliques, mais lui, il l'apporte à l'extérieur des murs. Là où les gens ont des besoins, là où les gens, la puissance de Dieu a réellement un impact sur eux. Parce qu'on dirait que des fois dans l'Église, on est tellement habitué de voir la puissance de Dieu qu'on ferme les yeux là-dessus puis ça passe dans le bar, comme on dit. Mais un inconverti qui est guéri ou qui voit un démon sortir d'une personne, ça a un impact sur lui, là. Parce que vous pouvez prendre n'importe quel athée, par exemple, puis quand vous le guérissez au nom de Jésus, ça a vraiment un impact sur lui. Parce que là, ça vient le bouleverser puis il faut qu'il explique pourquoi qu'un Dieu qui n'existe pas est capable de le guérir. Puis ça, c'est une façon d'évangéliser. Fait que j'ai commencé à écouter des vidéos de cet homme-là, puis comme j'ai dit tantôt, moi, quand je me mets dans quelque chose, je me mets à fond. Fait que j'ai tout écouté ce qu'il y avait de disponible, puis au même moment où j'étais en train d'écouter ça, c'était le lendemain que j'avais prié puis que j'avais demandé à Dieu, j'ai dit mot pour mot, montre-nous comment amener le monde à l'Église. Drette, quand j'étais en train d'écouter ça, il y a une voix qui est venue en moi. Ceux qui ont déjà entendu la voix de Dieu, vous savez, c'est comme une voix audible, mais c'est fort, c'est dans notre cœur, puis ça me dit, tu me demandais comment amener le monde à l'Église. J'ai dit oui, Seigneur. Ça me dit, c'est pas au monde à venir à l'Église, c'est à l'Église à aller vers le monde. aussi simple que ça, aussi carré, aussi direct. Peut-être vous allez me dire, ben Joe, t'aurais dû allumer avant. J'ai pas allumé, mais là, je suis allumé, puis j'espère que vous allez être allumé encore plus quand vous allez partir d'ici aujourd'hui. Puis j'ai commencé à écouter ces vidéos, puis la voix est revenue, puis ça m'a dit, va vers les gens, montre-leur mon amour, montre-leur ma puissance, pas pour essayer de les convertir, pas pour les voir comme des trophées ou des missions. Aujourd'hui, les chrétiens, on a tellement le cœur de convertir les gens, on veut bien faire, mais c'est qu'en cours de chemin, on oublie de les aimer, tout simplement. On veut tellement essayer de pointer ce qui est mauvais dans leur vie, mais il faut réaliser que les gens à l'extérieur des murs, c'est des pécheurs. Donc, un pécheur qui ne commet pas de péché, c'est pas normal. C'est juste normal qu'il commette des péchés. Il vit dans le mensonge, il vit dans le péché. Fait qu'il ne faut pas s'étonner, puis il ne faut pas pointer le mauvais dans sa vie. Il faut faire ressortir le bon. Il faut le voir avec la façon que Dieu le voit. Il faut le voir avec la perspective de Dieu. Peu importe la personne que vous rencontrez, Jésus est mort pour lui ou pour elle. Puis il est peut-être à un point de sa vie où vous étiez il n'y a pas très longtemps. Donc, notre travail, ce n'est pas de juger les gens puis de faire ressortir le mauvais de leur vie. Un jour, la Bible nous dit qu'on va être juge des hommes et des anges, mais là, on n'est pas rendu là. Maintenant, notre travail, c'est d'être l'extension de l'amour du Père ici sur terre puis de manifester le royaume de Dieu. Donc, quand Dieu m'a dit ça, j'obéis parce que là, n'oubliez pas, je suis à fond pour Dieu. J'ai perdu 28 ans de ma vie à perdre mon temps puis à rien produire. J'ai beaucoup d'années à rattraper. Fait que j'ai commencé à faire des recherches, puis j'ai découvert que cet homme-là n'était pas tout seul. C'est un des pionniers qui a fait ça de cette façon-là, disons, d'aller vers les gens puis de les approcher comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le faire par après, puis il y a des gens qui non seulement ils le faisaient, mais ils ont commencé à entraîner d'autres croyants qui avaient vraiment à cœur de servir Dieu, mais qui n'avaient jamais eu leurs yeux ouverts sur cette réalité-là de l'Évangile puis cette façon-là d'évangéliser. Puis, les choses ont déboulé. J'ai découvert des ministères puis tout. Mais c'était tous des ministères qui étaient relativement assez loin. Puis je suis tombé sur le directeur d'un ministère qui était ici en Ontario, au Canada. Fait que je l'ai contacté tout de suite, puis il m'a dit, « Dieu t'a sûrement dirigé, parce qu'il dit, on a un Danois du Danemark qui vient pour une séance d'activation, il est en Ontario la semaine prochaine. » Fait que j'ai dit « Gloire à Dieu », j'ai dit « La semaine prochaine, c'est un peu serré », mais l'autre semaine après, il faisait deux places en Ontario. Il était à Toronto puis à Guelph. J'ai dit « Pour Toronto, c'est trop serré, mais je vais prendre ma semaine de vacances, coûte que coûte, puis je vais y aller pour l'autre semaine. » Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis avec mon père m'a accompagné, on a pacté nos trucs, j'ai fait mon chiffre au travail, j'ai fini, on a pacté nos trucs, on a descendu de nuit, on n'a pas dormi de la journée, on a assisté aux conférences, c'était une conférence de 3 jours. Probablement que les gens ne vont pas le connaître. Le ministère, c'est The Last Reformation. L'homme, il s'appelle Torben Sundergaard. C'est un Danois du Danemark. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il dédie son ministère vraiment pour... il emploie le terme « kickstarter ». Ça veut juste dire « activer », prendre un croyant qui peut-être qui ne croit pas dans la guérison ou qui ne sait pas qu'il a le pouvoir de guérir les malades, puis il l'amène simplement dans les rues. Puis le plus dur, c'est de casser la glace puis d'aborder les gens, tout simplement. Fait que lui, il va aborder les gens, puis quand il trouve un malade qui est prêt à faire prier pour lui, parce qu'on ne peut pas forcer les gens, évidemment, mais la plupart des gens, ils n'y croient pas. Fait que juste pour vous prouver que vous avez tort, souvent, ils vont dire « vas-y ». Fait qu'une fois qu'il trouve la personne malade qui accepte de la prière, bien là, le plus dur du travail est fait, puis il fait prier la personne ou le nouveau converti, ou cette personne-là. Des fois, c'est des chrétiens que ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'Église, mais ils n'ont jamais vu ça parce que soit qu'ils ont reçu de la doctrine ou des expériences, puis l'Église est venue avec mille et une raisons pourquoi la guérison ne pourrait pas se produire, quand la parole nous donne une seule raison pourquoi elle peut se produire, puis c'est Jésus-Christ, tout simplement. Il y a une seule raison que Jésus a donnée dans la parole pourquoi une guérison ne peut pas avoir lieu, puis c'est l'incrédulité. Ce n'est pas l'incrédulité de la personne malade, c'est l'incrédulité de la personne qui prie. Amen? Donc, c'est ça. On a assisté à cette conférence-là. Puis, c'était des conférences. Comme j'ai dit tantôt, Dieu agit sur notre obéissance, pas sur notre connaissance. Vous n'avez pas besoin d'avoir une doctrine extraordinaire pour être capable de guérir un malade, par exemple. Vous avez juste besoin d'obéir puis d'être assez naïf pour croire la parole, tout simplement. Fait qu'on avait des sessions, c'était pas des gros enseignements. On s'est tout simplement présenté parce qu'il y avait du monde de partout à travers le Canada. On s'est présenté, on a eu quelques mots, on est allé dîner pour se connaître un peu. Mon frère Assad, qui est ici, on s'est rencontrés là-bas. Il vient de Montréal, mais il était là-bas, puis on s'est rencontrés, puis tout de suite, ça a cliqué, parce qu'évidemment, on a le même esprit, puis on était là vraiment pour servir Dieu, puis pour en connaître plus. Puis, c'est ça, on allait manger ensemble, puis tout de suite, dans l'après-midi, il nous relâchait, puis on allait vers les gens. Fait qu'il nous lâchait dans la gueule du loup un peu. Au début, c'est un peu épeurant parce que tu sais pas par où commencer. Mais là, quand t'es là, t'as pas le choix. Tu peux pas rester planté dans le monde toute la journée. Il faut que tu fasses quelque chose. Fait qu'on a commencé, puis on approchait les gens. Puis peut-être la deux ou la troisième journée, je me souviens plus là, exactement. On était en équipe de deux parce qu'on se déplace pas avec des gros groupes. Quand les gens voient une dizaine de personnes arriver sur eux pour leur imposer les mains, ils se sentent un peu envahis, là. Déjà que vous les approchiez en disant que vous êtes chrétien puis que vous voulez prier pour eux, ça leur fait peur parce qu'ils sont pas habitués de voir des chrétiens qui vivent leur foi, tout simplement. Fait que la troisième journée, j'étais en équipe avec une dame, puis on évangélisait. On était dans Guelph, sur la rue principale en Ontario. Il y avait beaucoup de monde, on approchait les gens. Puis on essayait différentes approches. Parce que des gens que vous connaissez pas, vous les approchez, vous leur dites « Bonjour, je vais te poser une question, t'as-tu mal quelque part? » C'est pas ce qu'ils s'attendent d'entendre bien souvent. Puis souvent, c'est mieux de les approcher comme ça avant de leur parler de Dieu, parce que les gens ont tellement une opinion négative face à la chrétienté qu'ils vous classent tout de suite comme une religion, puis vous allez les perdre comme ça. Mais quand vous les approchez pour la guérison, bien, ils peuvent penser que vous êtes un ramancheur ou que vous voulez leur vendre quelque chose, mais vous essayez pas de les convertir, vous êtes là pour les bénir. Vous commencez par manifester la puissance de Dieu, puis après, leur cœur se rouvre, puis là, vous pouvez semer dans leur vie. Fait qu'on a tout simplement approché une madame qui était là, puis la madame, elle nous disait qu'elle n'avait pas de douleur. Mais j'y ai expliqué, j'ai dit, bon, ben c'est correct, madame, on ne veut pas forcer les gens à avoir un mal, on veut que vous soyez bien. Mais j'ai dit, nous, on est chrétiens, puis on fait juste se promener partout dans la ville. Aujourd'hui, on est divisé en groupes, on est là pour aimer les gens, tout simplement, puis les bénir. Puis j'ai dit, auriez-vous des besoins de prière? Si vous n'êtes pas malade, peut-être dans votre famille ou quoi que ce soit. Puis au moment où j'ai dit ça, la madame, elle m'a regardé, puis elle a éclaté, elle s'est mise à pleurer. Puis c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi, puis je me suis rendu compte à quel point une parole peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. On croise des gens à tous les jours, puis parce qu'on a peur, ou parce qu'on ne sait pas comment les approcher, ou parce qu'on a mille et une doctrines à pourquoi on ne devrait pas les approcher, on ferme les yeux, puis on continue notre route. Puis on ne réalise pas combien de personnes est-ce qu'on croise dans notre vie qui sont prêtes à recevoir des semences. Ils vivent des choses, ils ont peut-être crié à Dieu pour avoir une réponse, puis vous êtes cette réponse-là. Mais parce qu'on se promène avec des œillères, on continue notre chemin, puis on se dit c'est des pécheurs, il faut se tenir loin d'eux autres. Mais quand on regarde la vie de Jésus, c'est pas qu'est-ce qu'il faisait. Jésus était en permanence pratiquement avec des pécheurs parce que c'est eux qui avaient besoin. Puis quand on est à l'extérieur des murs, c'est là que les besoins sont. C'est là que la puissance de Dieu, quand elle est manifestée, elle a un impact sur la vie des gens. Puis la madame, elle a croulé en larmes. Puis, je chantais dans mon cœur que c'était quelque chose avec son fils. Fait que j'ai dit, tu sais, auriez-vous des proches dans votre famille? Puis là, elle a éclaté, puis elle a commencé à pleurer. Puis, elle nous connaît pas, la madame, on l'a jamais vue. Puis, on l'approche pour lui demander si elle a mal. C'est vraiment bizarre comme situation, là, tu sais. Puis, elle a éclaté comme ça. Puis, elle a commencé à s'ouvrir, elle nous a parlé. C'était dans sa famille, quelqu'un qui était dans la drogue. Puis, voyez-vous, ça, c'est ce qu'on appelle, nous, une personne de paix. Quand on évangélise, c'est important de cibler des personnes comme ça, parce que ça, c'est des personnes que Dieu a déjà mis une semence dans leur vie. Dieu a déjà commencé à travailler dans leur vie par des situations. Des fois, ça peut être une rencontre dans le passé qui s'est passée. Ils ont déjà été proches de Dieu, ils sont retournés dans le monde ou quoi que ce soit, mais c'est des personnes sur lesquelles la puissance de Dieu va avoir un effet. Est-ce qu'on évangélise seulement les personnes de paix? Non, n'importe qui est malade, la volonté de Dieu, c'est qu'elle soit guérie. N'importe qui a besoin d'être aimé, d'être conseillé, vous êtes là pour être la lumière du monde. Mais les personnes de paix sont prêtes à recevoir plus d'évangiles. Il y a des personnes que même après avoir été guéries, ils se ferment automatiquement parce que ça les bouleverse puis ils ne savent pas de quel côté aller. Puis vous ne pourrez pas semer plus. Vous ne pouvez pas en donner plus à la personne qui est prête à en recevoir. Si vous venez de mettre une semence dans sa vie avec la guérison puis vous poussez pour la convertir, vous pouvez déraciner la semence que vous venez de mettre puis la personne, elle se sent poussée puis elle sent que vous êtes là pas vraiment pour l'aimer, mais encore, vous la voyez comme une mission puis un trophée. Puis il faut faire très attention à ça. Fait que juste là, cette expérience-là avec la dame, elle n'avait pas été guérie, on n'a pas prié pour elle, mais mes yeux se sont ouverts sur une réalité que beaucoup de chrétiens passent à côté. Les besoins sont là, puis on est appelé à être la lumière du monde. Dieu a décidé de toucher les gens à travers nous, c'est le ministère qu'il nous a donné. Il ne fera pas à travers les anges, il ne fera pas tout seul. Il nous a donné l'honneur d'être l'extension de son amour puis de sa puissance ici sur terre. C'est notre ministère en tant qu'enfant de Dieu. Et puis cette dame-là, elle a commencé à s'ouvrir, puis on lui a tout simplement dit, on est en conférence ici dans un hôtel en Ontario. Puis le soir même, elle était à la réunion, puis elle a assisté à la conférence. Puis on ne l'a pas forcé, on n'a pas... Moi, je l'ai laissé avec la dame qui était avec moi, puis j'ai vu quelqu'un de malade passer, fait que je suis allé vers cette personne-là, puis on ne l'a pas poussé. Simplement une parole comme ça, la dame, elle avait déjà eu une semence dans sa vie, on ne connaît pas ce qu'elle a vécu, on ne sait pas à quel point qu'elle est rendue, on ne sait pas ce qu'elle traverse, mais juste par une parole. Puis combien de personnes est-ce qu'on rencontre dans nos vies comme ça? On ne sait pas qu'est-ce qu'ils traversent, on ne sait pas à quel point qu'ils sont, mais si on ferme les yeux dessus, bien, on ne verra jamais le royaume de Dieu se manifester et se répandre. Alors, je suis ici pour parler de guérison, puis là, je ne vous en ai pas parlé encore bien, mais à cette conférence-là, c'était une conférence d'activation. Donc, avant qu'on sorte dans les rues la première journée, comme je vous ai dit, on n'a pas reçu de doctrine, il nous a juste expliqué certains points. Vous allez me dire, c'est évident, mais des fois, avec le stress, on ne réalise pas ce qu'on fait. Mais exemple, quand on va prier pour quelqu'un qui a un problème dans le visage, on ne va pas mettre nos mains puis rentrer dans sa bulle ou on ne l'étrangle pas ou des choses comme ça. Non, mais vous seriez surpris de ce qu'on fait quand on est là puis on ne sait pas. Au début, là, aujourd'hui, pour moi, ça semble facile, mais si vous le faites, vous allez voir qu'au début, il y a beaucoup de... Puis Satan est contre vous aussi. Il y a beaucoup de pensées qui vous passent dans la tête, là, tu sais. Fait qu'avant qu'on sorte la première journée, quand on était dans la salle de conférence, l'homme il a dit, bon, ben on va pratiquer ça tout de suite. L'homme qui était en charge de ce ministère-là, il a dit, on va pratiquer ça tout de suite avant de sortir. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont malades, qui auraient des besoins de prière? Fait que là, il y a des gens qui ont commencé à se lever puis avancer. Puis là, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a jamais prié pour quelqu'un qui a été guéri instantanément? Fait que là, pratiquement toutes les mains se sont levées, incluant la mienne. J'ai essayé de la mettre plus haut que les autres. Puis là, il a regardé la foule, puis il m'a pointé. Il dit, toi, t'aimes-tu Jésus? J'ai dit, oui. Fait que là, il dit, je savais que t'aimais Jésus, viens-t'en ici. Fait que là, il m'a fait avancer en avant. Puis là, il y avait une équipe de tournage aussi là, parce qu'ils sont en train de tourner un film qui va sortir dans les prochains mois sur tout ce qui se passe dans les rues comme ça. Puis, il a pris la première personne qui était dans la ligne. Puis, il a demandé « Qu'est-ce que tu as? » Évidemment, on était en Ontario, fait que c'est en anglais. L'homme, il a dit « I have pain in my knee. » Il avait de la douleur dans son genou. Mais il n'a pas donné de détails, c'est tout ce qu'il a dit. Fait que là, il m'a regardé, puis il m'a dit « Tu peux prier pour lui. » Mais moi, j'avais déjà écouté toutes les vidéos de ce ministère-là. J'avais appris toutes les prières par cœur, puis la façon de procéder que le gars faisait. Parce que je voulais être sûr de faire exactement comme lui. Fait que là, j'étais prêt, là. J'avais descendu en Ontario de nuit pour faire cette prière-là, fait que je savais à quoi m'attendre. Fait que là, l'homme il a juste dit « j'ai mal au genou ». Fait que je me suis penché, j'ai mis mes mains sur son genou. Puis ceux qui ont vu les vidéos, là, vous allez voir, c'est des prières très rapides. Ce n'est pas des prières, en fait, c'est des commandements. Fait que j'ai juste prié sur son genou. « Father, in the name of Jesus, I command all pain to go right now ». Puis là, l'homme il s'est penché, puis là, il dit « I can't believe this ». Moi, je pensais qu'il était incrédule, puis qu'il... Il disait, tu sais, ça marche pas. Puis là, il se relève, il dit, I don't have any pain. Et ma douleur est toute partie. Fait que là, l'équipe de tournage arrive, puis il commence à lui demander prendre son témoignage, puis tout. Puis moi, j'étais à côté, puis je suis encore un peu sous le choc. Tu sais, je m'attendais que ça arrive, mais la première fois que ça arrive, t'es comme, ça se peut-tu que ça soit aussi simple que ça? J'ai pas jeûné, j'ai pas une équipe de prière, j'ai pas parlé en langue, j'ai pas tombé à terre, j'ai. Fait que l'homme, il commence à donner son témoignage, puis il dit, j'ai 36 ans aujourd'hui, puis il dit, à l'âge de 16 ans, je me suis éclaté le genou. Fait que là, moi, je sors de la ligne, puis je le regarde un peu. Puis moi, il avait juste dit qu'il avait mal au genou, mais si j'avais su tout ce qui se passait, peut-être qu'il y aurait encore mal aujourd'hui parce que ça m'aurait affecté. Il dit, à l'âge de 16 ans, je me suis égrené le genou, puis ça fait 20 ans que je traîne cette douleur-là, puis il dit, je travaille sur la construction. Il dit, là, j'étais prête à tomber en arrêt de travail pour aller me faire opérer, parce que quand je me pense, mon genou, c'est comme un sac de chips. C'est tout égrené, puis ça craque, puis il dit, je suis obligé de me pencher sur une jambe, puis de laisser l'autre droite, puis il dit, j'étais supposé de me faire opérer, puis d'arrêter de travailler, puis il dit, là, je sens plus rien. C'est une prière de 2 secondes, là. C'est aussi ridicule que ça. Puis là, ça s'est passé. Ça, c'est ce qu'on appelle être kickstarté. Mais ça vous montre pas comment approcher les gens. Puis il y a encore des doutes qui viennent quand même. Parce que même après que la personne est guérie puis qu'elle vous dit qu'elle est guérie, Satan est assez tordu qu'il vous dit comment. Puis ça, même si ça fait longtemps que vous le faites, ça va être encore le cas. Parce que la seule zone où ce que Satan peut travailler dans nous, c'est dans nos pensées. Parce que notre esprit est déjà pleinement à Dieu. Mais vous ne pouvez pas obstiner la personne quand elle vous dit qu'elle guérit. OK, elle guérit, puis c'est pour la gloire de Dieu. Puis tant que son cœur se rouvre pour mettre une semence, bien, c'est ça qu'on veut, c'est ça le but. Fait qu'on a eu cette conférence-là, puis on a vu des choses extraordinaires durant les 3 jours qu'on a été là-bas. Je veux pas rentrer dans tous les témoignages parce qu'on va manquer un petit peu de temps, là. Mais il y a des gens qui étaient guéris dans les rues. Ils venaient le soir à conférence, on leur partageait l'Évangile. Ils étaient baptisés dans la piscine de l'hôtel le soir, puis il s'est passé des choses là, vraiment incroyables. Puis ça, c'est pas un événement isolé, là. Il y en a beaucoup, puis partout où ça se produit, les conférences, c'est toujours le même scénario. Parce que quand on obéit sur la parole, Dieu est fidèle. Ce qu'on peut lire dans le livre des Actes, ça n'a pas changé. La raison pourquoi on ne le voit pas, c'est qu'aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de chrétiens, mais il n'y a pas beaucoup de disciples. C'est ça la différence. Dans le livre des Actes, l'Église était beaucoup plus petite, mais c'était des disciples qui avaient saisi que quand ils donnaient leur vie à Christ, il fallait qu'ils y aillent à 100%. Puis il n'y avait pas la connaissance que la majorité des chrétiens ont aujourd'hui, fait qu'ils recevaient l'enseignement puis ils faisaient ce que les gens leur disaient. Quand Jésus a marché avec ses disciples, il ne les a pas assis dans une salle puis leur donné de la doctrine pendant ses 3 ans et demi de ministère ici sur Terre. Il allait parmi les gens, les disciples suivaient, puis ils le voyaient faire des signes, des prodiges, des miracles, guérir les malades, chasser les démons. Donc, par exemple, dans Matthieu 28, quand Jésus leur a dit « Allez par toute la terre annoncer la bonne nouvelle », les disciples ne sont pas tombés comme ça, se dire « Comment qu'on va faire ça? » Ils savaient exactement comment le faire. Ça faisait 3 ans qu'ils suivaient Jésus, puis qu'ils ne voyaient que du succès. Donc, ils ont été assez naïfs pour obéir à ce que Jésus disait, puis ils ont eu du succès aussi. Puis si vous obéissez à la parole aujourd'hui, Saint-Esprit est encore le même, puis vous allez avoir du succès aussi. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai 100% de réussite, puis ce que je peux vous dire, c'est que si Jésus serait ici, lui, il avait 100% de réussite. Puis nous, on marche vers ça. Parce qu'est-ce qu'il faut renouveler, c'est nos pensées. Parce que Satan nous a tordus, puis pour nous, quand on entend des mots comme cancer ou un bras cassé, une jambe cassée, c'est plus difficile qu'un mal de tête. Mais pour Dieu, il n'y a aucune différence entre les deux. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est préférable, même de ne pas avoir trop de détails. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont souvent pas apparentes, comme un mal d'épaule, ou vous ne le voyez pas, donc ça ne vous affecte pas. Mais si vous commencez sur une fracture ouverte, ça se peut que ça vous affecte plus. Mais pourtant, pour Dieu, c'est la même puissance, c'est le même miracle, puis ce n'est pas plus difficile. Jésus n'a pas forcé plus pour ressusciter Lazare que pour guérir n'importe qui d'autre. C'est l'Esprit de vie, c'est pas nous qui le fait. Nous, on est le canal, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui le fait. Tout simplement. C'est juste qu'il faut garder notre esprit assez vide pour pas que l'incrédulité vienne bloquer la puissance de Dieu qui est en nous. La majorité des chrétiens, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils forcent pour avoir la foi. Ils veulent tellement que la personne soit guérie ou qu'elle reçoive, qu'ils se mettent à forcer comme si la puissance venait d'eux. Mais le problème dans ça, c'est que la foi, on l'a. Dieu nous a départi à chacun une mesure de foi. Ça, c'est que vous le vouliez ou pas, Dieu vous a fait comme ça. Ce qui arrive, c'est que souvent, on a trop d'incrédulité, puis c'est ça qui empêche la foi d'agir. C'est pour ça que quand on prie pour les gens, on peut prier 2-3 fois avant de voir une percée complète. Parce que si ça ne part pas toute la première fois, on avait de l'incrédulité, mais il y a quand même de la foi qui est passée dans notre prière, puis Dieu a pu agir. Ce n'est pas Dieu qui tarde pour la guérison, là. Dieu fonctionne avec notre foi. Donc, si vous abandonnez là, la personne va rester avec 80 ou 75 de guérison. Mais si vos yeux ne sont pas sur cette situation, mais sur la parole, vous priez encore, puis vous priez jusqu'à temps que la personne vous laisse faire. Vous ne courez pas après, puis l'harceler, mais... L'avantage en faisant des courts commandements puis des courtes prières, c'est que vous pouvez prier 4, 5, 6 fois pour une personne en dedans d'une minute, puis elle n'est pas tannée. N'importe qui a une minute. Mais quand vous faites des courtes prières, des commandements, vous avez accès à faire plusieurs prières. Puis quand vous obéissez avec la parole puis que la situation ne change pas votre foi, bien là, Dieu commence à agir. Parce que si ça ne marche pas le premier coup, c'est pas nécessairement que ça n'a pas marché, mais c'est que Satan est lent à bouger. Parce qu'il sait que si la personne vous dit qu'elle a encore mal puis que vous vous découragez, bien il peut rester là. Parce que ce qu'il faut comprendre quand on vient poser les mains pour un malade, on n'est pas en train de demander à Dieu, de supplier Dieu de venir la guérir ou de supplier la maladie de s'en aller. La maladie, elle a été détruite à la croix il y a 2000 ans. Peu importe qui est la personne, peu importe son problème. La seule chose, c'est que Satan est assez tordu que lui, il est là illégalement. Puis il se dit, si cette personne-là rencontre pas de chrétien qui a une connaissance de la parole, je vais pouvoir rester là. Mais quand vous arrivez, vous ne venez pas supplier Dieu de la guérir, vous venez donner le commandement à la maladie. Tu n'as pas d'affaire là, puis moi, je le sais. Puis j'ai Jésus en moi, fait qu'il faut que tu obéisses. Que je prie 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça ne change pas la parole, il faut que tu obéisses. Fait que, c'est ça, on a assisté à cette conférence-là, puis il s'est passé beaucoup de choses, puis on est revenu ici. J'ai pris la semaine pour me reposer parce que ça a été un long voyage, disons, puis on a très peu dormi. Puis j'ai remis mes idées en place, puis la deuxième semaine, tout de suite, tout de suite, j'ai commencé à sortir. Puis il y a Marie-France qui est ici. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est une de mes amies. C'est un leader de louange à l'église Salut Délivrance. Puis c'est la seule qui a été assez naïve pour me suivre, disons, puis qui a osé y aller. Fait qu'on est sorti, puis on est allé, ceux qui sont de Granby, au lac Boisvin, ici, l'été, il y a beaucoup de monde autour. Peu importe où est-ce que vous êtes, le royaume de Dieu marche partout. Ça, ça n'a pas d'importance. Dieu aime les gens, puis partout où il y a des gens, la puissance de Dieu peut se manifester. Fait qu'on est sorti là. Puis Marie était déjà un petit peu au courant que j'étais allé là-bas pour me faire activer. Puis elle avait déjà vu plusieurs vidéos de guérison de, comme ça dans la rue, puis ces choses-là. Fait qu'elle savait un petit peu comment ça marchait. Mais j'y ai dit tout simplement, j'ai dit ce soir, on va là pour aimer les gens. On n'est pas là pour les résultats. On est là pour obéir à la parole de Dieu. Dieu nous dit d'aller, d'aimer les gens. La Bible nous dit dans Luc 19, guérissez les malades, déclare que le royaume de Dieu est prêt. On va là pour obéir à la parole, peu importe qu'est-ce qui arrive. Dieu est beaucoup plus fier d'un de ses enfants qui se plante en essayant que d'un chrétien qui semble avoir du succès en faisant rien. Amen. Fait qu'on est allé tout simplement, puis j'ai donné des témoignages. J'ai dit, quand on regarde des hommes comme Todd White, par exemple, ils ont prié pour environ 1000 personnes avant de voir une manifestation se produire. On peut regarder d'autres hommes, peut-être vous ne le connaissez pas, comme Pete Cabrera, des gars qui ont pratiquement 100% de réussite dans la guérison. Il l'a fait pendant 1 an et demi, 2 ans avant de voir une manifestation se faire. Pourquoi aujourd'hui c'est plus rapide que ça? C'est parce que ces hommes-là, ils le faisaient sans précédent. Il n'y avait pas de précédent, ils s'appuyaient sur Jésus puis sur la parole. Il n'y a personne qui avait modelé ça de cette manière-là dans les rues avec des pécheurs. Une des raisons pour ça, c'est que pendant longtemps dans l'Église, il y a eu une doctrine ou une mauvaise compréhension de la parole qui utilisait les Écritures pour dire qu'il fallait que les deux personnes aient la foi pour que Dieu puisse bouger. Donc, ces hommes-là, ils devaient combattre avec ces doctrines-là et ces enseignements-là. Mais en persévérant puis en s'appuyant, il faut être décidé puis il faut croire la parole pour prier pour 1000 personnes avant de voir une personne être guérie. Ça, c'est quand tu ne laisses pas ton expérience définir la parole, mais ta foi est sur la parole de Dieu. Puis peu importe ce qui arrive, on ne change pas Dieu, on change notre expérience. Donc, Marie, ses attentes étaient très basses, j'imagine. Elle devait s'attendre qu'on prie pour au moins 1000 personnes avant que ça marche. Puis on a abordé les gens, mais il y a beaucoup de monde qui sont très en santé au lac parce qu'ils font du jogging. Puis c'est la plupart des gens, au début, déjà, souvent les gens qui ont quelque chose, ils ne vous le diront pas parce qu'ils ne vous connaissent pas puis ils trouvent ça bizarre, là. Fait que on est tombé, après 4 ou 5 personnes, on est tombé sur un homme qui avait des problèmes dans son cou. Ça faisait des années qu'il avait ça, de l'arthrite ou des rhumatismes, puis il avait de la douleur dans son cou, puis c'était assez intense. C'était toujours 8 sur 10, ça partait jamais. Puis on a prié pour lui. Et là, je vous donne le punch. L'homme n'a pas été guéri, fait que ne soyez pas déçus, mais je vous donne le témoignage pour vous montrer que ça ne change pas la parole de Dieu. Il faut continuer pareil. Puis c'est pas parce qu'un n'est pas guéri que Dieu ne l'aimait pas, puis c'est pas parce qu'un n'est pas guéri que vous n'êtes pas bon, que vous n'avez pas le don de guérison, puis que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. On doit progresser, puis on ne peut pas progresser si on ne le fait pas, tout simplement. On a prié 4 fois pour l'homme, puis je priais avec toute la force que j'avais, là. Puis l'homme, il nous disait qu'il n'y avait pas d'amélioration. Mais ils ne s'attendent pas que ça va marcher de toute façon, fait qu'ils ne repartent pas déçus. Fait que on l'a béni. Bien, écoutez, monsieur, on est là pour votre bien, on voulait vous aider, fait que vous repartiez comme vous étiez avant. Puis c'est pas parce que ça ne marche pas tout de suite que ça ne marchera pas plus tard. Ça dépend de la foi que j'avais quand je l'ai faite. Puis moi, je l'ai faite sincèrement, puis je croyais avec toute la foi que j'avais. Puis on s'est reviré de cet homme-là. Puis la madame qu'on a pognée 30 secondes après, il y avait une madame qui marchait dans la piste cyclable avec un attelle sur son genou. Fait que là, tu n'as pas besoin de lui demander si elle a mal. C'est assez dur de nous mentir. Fait que on a prié pour elle, mais elle c'était pas une douleur qu'elle ressentait là sur le coup. Mais la dame qui était avec elle, elle avait des séquelles d'un accident. Ceux qui ont écouté le dernier montage vidéo, je pense qu'elle était dedans là, sur YouTube, ça s'appelle Miracle au lac Boisvin. Elle a eu un accident il y a plusieurs années, puis elle avait resté avec des séquelles de ça. Elle avait de la douleur dans son épaule constamment. Il y a un nerf qui avait mal repris. Puis quand elle bougeait son épaule, ça craquait tout le temps. Puis le matin, il fallait qu'elle fasse des exercices dans l'eau puis tout pour réchauffer son muscle, pour être capable de passer à travers sa journée. Fait que j'ai dit parfait, elle acceptait qu'on prie pour elle. Puis là, n'oubliez pas, ça c'est environ là, 20 à 30 secondes après que j'ai prié pour l'autre homme qui semblait s'être rien passé. Mais ça ne change pas la parole de Dieu. On a rencontré cette madame-là. Puis j'ai prié pour elle. Après que j'ai prié, j'ai dit « Teste-les, dis-moi c'est comment. » Elle me regarde, elle dit « Qu'est-ce que t'as fait? C'est pire. » Bon. Pourquoi? Premièrement, ça peut être Satan qui veut nous décourager. Il peut faire ce qu'il veut. S'il sait qu'il n'a pas le choix de sortir, il va se débattre tant qu'il peut pour essayer de nous décourager. Deuxièmement, souvent, les gens, quand ils sont guéris puis que Saint-Esprit est en train de replacer quelque chose, pendant un court moment, ça peut être pire. Comme quand vous allez chez le chiro, exemple, ou des choses comme ça. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai senti l'incrédulité arriver, mais ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu es capable de contrôler ça puis de ne pas la laisser rentrer. Puis c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. J'ai reprié pour elle une autre fois, puis là, elle a dit « la douleur est toute partie ». Gloire à Dieu. Puis là, elle avait un claquement, dans le fond, quand elle tournait. On a reprié pour ça, puis là, elle a dit « le claquement est toute partie ». Fait qu'on n'avait pas filmé sa guérison, mais on a pris son témoignage par après. Puis ça, n'oubliez pas, c'est la première fois qu'on est sorti toute seule. 20 secondes, 30 secondes après, quand j'avais prié pour l'autre homme qui semblait pas avoir été guéri. Puis elle a été guérie d'un problème qu'elle traînait depuis des années, que les médecins ne pouvaient rien faire pour elle. Avec deux ou trois prières d'environ 10 secondes par prière. C'est pas nous qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Tout ce que Dieu a besoin, c'est de l'obéissance. Puis on a évangélisé pendant peut-être une heure et demie autour du lac cette journée-là comme ça. Puis en revenant, il commençait à faire sombre. Fait qu'en traversant le pont pour retourner... où ce que le McDo de la gare, il y avait deux personnes assises sur un banc, mais j'ai dit on va les aborder. Fait que j'ai approché, il y avait une madame avec son copain, puis le copain était très réticent, il était très fermé, tout de suite quand tu parles de Dieu, il pensait que c'était de la religion puis tout, il voulait rien savoir. Mais la madame, elle avait un problème avec ses comment qu'il appelait ça, des capsulites. En tout cas, là, Satan a des noms bizarres pour ces maladies là, c'est on n'a pas le temps d'apprendre ça. Nous, on n'est pas docteurs, on est chrétiens. Si ce n'est pas dans le royaume de Dieu, on le chasse, tout simplement. Fait que la madame, elle avait des problèmes, puis ça faisait qu'elle ne pouvait pas lever ses bras plus haut que ça. Là. Puis elle traînait ça depuis des années, elle ne pouvait rien faire pour elle pour ça. Fait que j'ai dit, je peux-tu prier pour vous? Puis mais elle a dit, tu ne peux pas me toucher, c'est trop douloureux. Bien, j'ai dit, pas de problème, hein, je ne suis pas obligé de vous toucher, je vais juste prier comme ça à distance. Puis là, elle a commencé à être à court d'excuses, fait qu'elle a accepté pour qu'on prie. Puis son copain avait hâte qu'on parte, fait qu'il a accepté aussi. Fait que j'ai juste levé ma main vers elle, la même prière, j'ai commandé à la guérison, douleur sort complètement dans le nom de Jésus maintenant. Fait que là, elle a levé ses bras, puis ça a monté plus haut. Non, pas la première fois. Ben, c'est ça, c'était pareil, mais ça ne change pas la parole de Dieu. J'ai reprié pour elle une deuxième fois, puis là, ça a monté, puis encore, ça a monté jusqu'en haut. Là, elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait, puis son copain était un peu bouleversé, parce que là, il n'y avait comme plus trop d'excuses. Fait que c'est ça, voyez-vous, j'ai pas imposé, il n'y a pas de méthode pour le faire. C'est pas parce que vous imposez les mains à une personne ou que vous le faites à distance, ou on peut voir l'apôtre Paul qui le faisait avec des linges qui ont touché son corps, ou l'apôtre Pierre avec son ombrage. Dieu nous donne selon notre foi. Et quand je dis notre foi, c'est notre foi. Que la personne en avant de vous soit incrédule, par-dessus la tête ou un athée, ça ne change rien. Quand Jésus reconnaissait la foi dans quelqu'un, il pouvait l'utiliser, mais quand la personne ne l'avait pas, ben il ne la laissait pas malade. Parce que si les deux personnes sont obligées d'avoir la foi, il faut vous m'expliquer comment Lazare est sorti du tombeau. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de foi à Lazare. Il était mort depuis 4 jours. Donc, c'est ça. Cette madame-là a été guérie, puis là, son copain faisait un peu de pression parce que lui était vraiment incrédule, puis il ne voulait rien savoir de ça. Mais on n'a pas essayé de la convertir ou de dire « là, tu vas changer ça, ça, ça dans ta vie. Nous autres, on est chrétiens, on est meilleurs que toi. » Puis c'est pas ça le but. On lui a mis une semence dans sa vie, on lui en a donné jusqu'où qu'elle était capable d'en prendre, puis on est reparti tout simplement. Tout ce qu'elle avait, c'était notre nom. Puis elle savait qu'on était chrétiens, puis elle savait un petit peu où ce qu'on allait, qu'on était de Green Bay. Le soir même, elle est venue m'ajouter sur Facebook, elle a commencé à me poser des questions. Le lendemain, elle a communiqué avec Marie parce que je n'étais pas là, puis elle a dit « à quelle église vous allez? Je vais aller voir ça. » Elle a dit « je vais aller voir où il y a une puissance comme ça. » Voyez-vous, c'est pas nous qui essayons de la convertir, c'est pas nous qui essayons d'avoir un membre de plus dans l'Église. On fait pas ça pour ça, on fait ça pour le royaume de Dieu. Puis le royaume de Dieu marche sous forme de semence. Tant que vous mettez une semence dans la vie des gens, Saint-Esprit a quelque chose sur lequel travailler, puis il va le faire. Si vous faites votre part, il va faire la sienne. Fait que c'est ça, cette madame-là, son copain était très fermé à ça, fait qu'elle a pratiquement été obligée de se sauver de chez eux pour pouvoir venir à l'Église. Elle a fait à croire qu'elle s'en allait à la pharmacie pour pouvoir venir à l'Église parce qu'elle voulait tellement voir ça. Fait qu'elle est venue, elle a assisté. J'aimerais ça vous donner un témoignage que la puissance de Dieu est tombée sur elle puis qu'elle s'est convertie, mais c'est pas ça qui est arrivé. Mais nous, notre travail, c'est pas de les convertir, c'est de leur apporter la vérité puis de manifester la puissance de Dieu. Puis tout ce qu'on peut faire, c'est la garder en prière. Je peux pas la pousser à se rebeller contre son copain parce que son copain, il est pas dans la vérité. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est des pécheurs. C'est normal qu'il y ait du péché dans leur vie puis c'est normal qu'ils comprennent pas tout. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est la garder en prière. Mais la semence a été mise quand même. Puis rien n'empêche, la personne n'est pas maudite pour toujours. Là. La semence est dans sa vie. Puis on ne sait pas dans un an, deux ans, cinq ans, trois ans, les circonstances qui vont changer dans sa vie, les personnes qu'elle va rencontrer. Il va déjà avoir une semence, puis peut-être que dans cinq ans, un autre chrétien va la rencontrer, puis ça va être une personne de paix, elle va être ouverte, elle va être prête, parce qu'elle a eu une semence. Mais si on ferme les yeux dessus, puis on passe à côté, bien, il n'y aura jamais de semence qui va être mise. Amen? Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je vous dis? Un autre témoignage. Je vais vous partager quelques témoignages qui n'ont pas été filmés, parce que tout ce qui a été filmé, vous pouvez aller le voir sur Internet, sur la page ou sur YouTube. Fait que vous êtes VIP ce soir, je vous partage du matériel qui n'a pas été filmé. Vous êtes choyés, amen. Un autre témoignage. On est allé aux Galeries de Grande Bay un samedi, je pense, là, parce que le samedi, c'est généralement les gens sont en congé, donc il y a plus de monde. Donc, on essaie de prendre des journées comme ça, qu'on n'est pas obligé de courir pendant un kilomètre pour avoir quelqu'un. Puis, moi, je finis de travailler tard les vendredis, puis je retravaille les samedis après-midi. Donc, ça nous laisse vraiment un court laps de temps. Puis, cette journée-là, on avait à peu près 30-40 minutes maximum. Fait que Marie est avec moi, journée-là aussi. J'ai dit, on va voir qu'est-ce que Dieu est capable de faire en 30 minutes. On est là pour sa gloire, pour son royaume, puis c'est le temps qu'on a, fait qu'on va l'utiliser. Fait qu'on a commencé, on a abordé les gens, on a eu des conversations, on est tombé sur un monsieur, il était très fermé, il ne voulait rien savoir. On a quand même parlé avec lui, puis c'est un monsieur d'un certain âge, puis lui, pour lui, la maladie, c'était là pour nous renforcer, c'était là pour nous rendre plus forts, puis le corps se guérit de lui-même, puis il a raison d'une certaine façon, le corps se guérit de lui-même, mais nous, ce que je t'apporte, c'est une guérison divine. Si tu as le bras cassé, puis il se guérit devant tes yeux, ça, c'est pas une guérison naturelle. C'est de ça que je suis en train de te parler, là. Mais voyez-vous, on n'a pas maudit la personne et essayé de la corriger. On a simplement essayé de semer dans elle. Elle n'était pas ouverte. J'ai essayé de toutes les façons. Mais l'idée, ce n'est pas de rentrer dans une argumentation puis un débat. Ça ne sauve personne. C'est les manifestations de puissance puis c'est l'amour de Dieu qui convainc les cœurs de vérité. Ce n'est pas en essayant de se débattre puis d'avoir le dernier mot. Puis le monsieur, il nous a dit tout simplement, il dit en temps normal, il dit je vous aurais reviré, puis d'une manière assez solide. Mais il dit vous avez l'air vraiment sympathique, fait que j'ai jasé avec vous autres. Bon, mais j'ai dit parfait, monsieur. J'ai dit merci pour votre temps, puis passez une belle journée, puis Dieu vous aime. Puis on a continué. Mais c'est pas parce qu'il ne s'est rien manifesté là que ça change la parole, puis le royaume de Dieu. 20 pas à peu près après qu'on ait laissé ce monsieur-là. Il y a une madame qui est à côté de nous, puis elle était essoufflée, puis elle se traînait. Il y avait une petite pente dans le plancher aux galeries, puis elle essayait de se dépêcher, puis elle dit « Ah, c'est pas facile! » Fait que je me reviens vers elle, puis j'ai dit « Ah, qu'est-ce qui se passe, madame? On peut-tu vous aider? » Puis là, elle dit « Ah, c'est mes genoux, j'essaie de rattraper mon mari. » Son mari était dans le bas de la pente, fait que j'ai dit « Wow! » Belle porte. Puis nous, à chaque fois qu'on va évangéliser comme ça, quand on sort expressément pour ça, on commence toujours par prier puis relâcher la grâce de Dieu dans la place où ce qu'on est, puis on demande à Dieu de nous diriger vers des personnes de paix, comme je vous ai parlé un petit peu tantôt. Est-ce que ça veut dire qu'on attend d'avoir un frisson puis une vision pour aller vers les gens? Non. Il ne faut jamais que ça devienne une excuse. Tant que vous évangélisez puis que vous êtes là, vous êtes dans la parfaite volonté de Dieu, c'est la parole qui nous le dit. Vous n'avez pas besoin d'avoir une révélation de plus. Mais en cours de chemin, Dieu peut vous faire ressortir quelqu'un, vous pouvez avoir une parole spécifique pour quelqu'un, une compassion, une parole de connaissance, une prophétie qui ressort pour quelqu'un, mais vous n'avez pas besoin d'attendre ça pour bouger. Jésus a déjà dit « Allez par toutes les nations ». Ça fait 2000 ans qu'il l'a dit, vous n'avez pas besoin d'une confirmation de plus. Donc, c'est ça, cette madame-là, on lui a demandé, on lui a dit « Bien, on peut-tu vous aider? » Puis là, elle a dit « Ah, c'est mes genoux. » Elle a dit « Je me suis fait opérer le genou droit, ils ont enlevé son genou, ils ont mis un genou artificiel, disons, là, une prothèse dans le genou. Comme je vous ai dit, je ne suis pas docteur, mais c'était pas naturel. Puis là, elle a dit, je suis en attente pour l'opération dans mon autre genou. Fait que là, finalement, on l'a aidé jusqu'à temps qu'elle rejoigne son mari. Puis quand elle est arrivée à son mari, on lui a parlé, on lui a expliqué un petit peu qu'est-ce qu'on faisait. Puis elle a accepté, c'était des gens d'un certain âge, puis ils étaient bien ouverts à ça. Fait qu'elle a accepté. De toute façon, dans sa tête, ça ne marcherait pas. Fait qu'elle n'avait pas grand-chose à perdre. Fait que je me suis penché, j'ai mis les mains. Elle avait de la douleur à 8 sur 10 constamment dans son genou. Puis elle a dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir mon rendez-vous pour être capable d'avoir mon nouveau genou. Fait qu'elle a dit, en attendant, je vis avec. Puis là, j'ai posé mes mains sur ses genoux, encore le même principe, une courte prière, dans le nom de Jésus, douleur sort complètement maintenant. Fait que là, comme la plupart du monde, quand je me suis relevé, elle a dit « ben merci beaucoup ». Puis là, les gens veulent continuer leur route parce qu'ils sont habitués que ça ne marche pas. Ben j'ai dit « testez-les », j'ai dit « c'est là, là que ça se passe ». Fait que là, elle s'est penchée, elle a mis du poids sur son genou, puis là, elle s'est relevée vite, elle a dit « qu'est-ce que vous avez fait là ?» Ben j'ai dit « c'est comme je vous ai dit, là, on a prié dans le nom de Jésus pour votre genou, là ». Elle m'a dit « ça marche vos prières ?» Elle dit « c'est baissé, là, plus que la moitié, elle dit, c'est peut-être là, 3 ou 4 sur 10, là ». Ah, j'ai dit « parfait », je me suis repenché, j'ai repris la même prière exactement sur elle. Vous allez me dire « Joe, c'est pas dans la Bible, Jésus a prié 2 fois pour un homme aveugle ». OK? Fait que si vous cherchez des excuses et des doctrines, le but c'est que vous aimiez la personne et que vous manifestiez le royaume, tout simplement. Fait que j'ai reprié pour elle, puis là, elle mettait son poids, elle dit « je comprends pas », elle dit « je sens plus rien ». Mais là, elle dit « mon rendez-vous, c'est mon père pareil, puis mon genou est guéri, qu'est-ce qui va se passer? » J'ai dit, vous leur expliquerez qu'est-ce qui s'est passé, puis ils vont vous repasser un test ou un rayon X, quelque chose avant. Puis Marie a commencé à y témoigner puis, parce qu'elle était avec moi. Puis là, son mari était avec elle. Fait que j'ai demandé à son mari, j'ai dit, avez-vous quelque chose? Puis il disait, ben non. Puis là, sa femme, il donne une tape. Elle dit, ton épaule! La madame est plus au courant des problèmes de son mari. Fait que le monsieur, il me dit, ah, il dit, c'est vrai, j'ai des problèmes dans mon épaule, mais il dit, c'est pas constant. Fait qu'il dit, des fois ça vient, des fois ça part. Puis il dit, là, aujourd'hui, je ressens pas, c'est pas alarmant, je le ressens pas vraiment. Bon, mais j'ai dit, parfait, on va prier pour ça quand même, que vous le sentiez pas là, ça n'a pas d'affaire dans votre vie, puis on va prier pour ça. Fait que j'ai posé mes mains sur son épaule. Simple prière, courte prière, même chose. Puis j'ai demandé à Dieu de venir le toucher pour qu'il sache qu'il était guéri. Il dit, ça commence à me picoter de mon cou jusque dans mon coude. Il dit, ça picote partout. Mais j'ai dit, ça, c'est la présence de Dieu. Là, ils ont commencé à toucher les deux puis à pleurer. La présence de Dieu est descendue, vraiment, ça pouvait se sentir. Puis là, on leur témoignait. Puis là, la madame puis le monsieur, ils nous ont regardés puis ils nous ont dit, savez-vous de où est-ce qu'on arrive? J'ai dit, non, vous allez sûrement nous le dire. Il dit, on arrive du salon funéraire. Il dit, on vient d'enterrer un membre de la famille. Puis il dit, le pasteur qui faisait la cérémonie, il dit, il a cité tous les points que vous venez de nous donner. Il dit, vous venez de retoucher à tous les points qu'il a dit durant la cérémonie. Puis là, il pleurait, puis il était touché, les gens. Voyez-vous, si on aurait fermé les yeux, puis on aurait continué, c'est une semence qui n'aurait pas pu être mise. Là, on était là 30 minutes cette journée-là. Les premières personnes étaient fermées. Il y a un monsieur qui n'était pas tout d'accord avec nous autres. Ça ne change pas la parole. Quand on est arrivé à cette madame-là, le royaume de Dieu s'est manifesté. Elle a eu un miracle dans sa vie. Elle a eu une semence qui parle plus fort que n'importe quel dépliant, n'importe quelle annonce à la radio ou sur Internet, parce que ça, elle l'a vécu et elle va s'en souvenir toute sa vie. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? C'est sa décision. Mais la semence est là. Puis Dieu est fidèle pour faire grandir la semence puis que ça porte du fruit. La personne a toujours le choix. Mais nous, notre travail, c'est de mettre des semences dans la vie des gens. Fait qu'elle et son mari ont été touchés, puis on était capable de leur témoigner, puis de remettre des semences. Puis j'avais pas de carte encore de fête, fait que j'ai pas pu leur laisser ça. Mais j'y vois avec la connaissance que j'ai, puis c'est tout ce qu'on pouvait faire, fait que je les garde en prière, puis c'est un témoignage de plus. Amen. Un autre témoignage, encore aux Galeries Green Bay. Ça commence à être un lieu béni, là. Il y a beaucoup de miracles qui se passent là-bas. C'est bien parce qu'on ne s'est jamais fait sortir encore là-bas. Dans des centres commerciaux, quand ça commence à attirer les foules, on est obligé de sortir. Puis c'est correct, les gens font leur travail. On était à Saint-Jean à un moment donné avec un groupe, puis on était 3 groupes de 10 parce qu'on activait une 30aine de personnes. Puis les 3 groupes se sont fait sortir par les gardiens de sécurité. Ils ont dit, si vous êtes avec les guérisseurs, on va vous demander de quitter parce que ça fait des attroupements. Bon, bien, on obéit aux autorités, ils font juste leur travail, mais c'est bénissant de se faire sortir parce que Dieu est en train de guérir les gens. Puis mon frère Assad, il était avec une madame, puis la madame, elle voulait tellement être guérie qu'elle a dit, moi, je vais vous suivre en dehors du centre d'achat pour que vous puissiez continuer à prier pour moi. Donc, j'étais aux Galeries Green Bay, puis ça, c'est un homme qui est dans la vidéo, puis il est sur YouTube, ceux qui ont suivi un petit peu, là, c'est un jeune homme qui était. On est obligé de couper son visage parce qu'il ne voulait pas être filmé, parce qu'il était en train de travailler, mais il y avait un kiosque où il faisait des. Il vendait des tours de Ferrari sur piste puis tout ça. Puis moi, je l'ai approché. Puis c'est un jeune homme un petit peu plus jeune que moi, puis vraiment bâti, les tatous puis tout. Là, il s'entraîne. Puis il s'était blessé en s'entraînant, puis il avait une lésion dans le biceps du sous-épinier. C'est encore un nom bizarre que Satan a donné à ses maladies, là. Puis ça, ça a fait que ça a jamais bien repris. Puis là, il avait été obligé d'arrêter de s'entraîner à cause de ça. Puis il a perdu la sensation dans son majeur à cause que le nerf était relié avec son doigt. Puis ça, on le voit dans la vidéo. J'ai prié pour lui. Il a été guéri. La sensation est revenue dans son doigt. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a commencé à sentir des picotements partout dans son torse puis dans ses bras. Puis la douleur est partie complètement dans son bicep. Bon, gloire à Dieu. Mais la semaine d'après, on est retourné aux galeries encore pour évangéliser. Puis son kiosque est encore là. Fait que moi, je suis rentré par un autre côté du centre d'achat, puis Marie était avec un autre groupe. Elle dit, il s'appelait Soledad, le jeune homme. Elle dit, il est encore au kiosque. Bon, j'ai dit, parfait, je vais passer en douce pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait que j'ai passé par là, comme si de rien n'était, juste pour lui dire salut. Ah, salut, puis ça va bien ton bras. Fait que là, il me fait signe. Fait que là, je m'en vais le voir au kiosque. Fait que là, il dit, ça va bien, j'ai plus de douleur, j'ai recommencé à m'entraîner cette semaine. Il dit, tout est correct, mais là, j'aurais des questions à te poser. Ah bon, ben j'ai dit parfait, je suis pas venu ici pour ça, mais on va en profiter. Fait que il dit c'est comme une job secondaire là, de la promotion qu'il faisait. Il y a une compagnie de pavage dans le coin de Montréal. Puis il dit, je suis descendu, puis j'ai parlé de ça avec mes actionnaires quand tu as prié pour moi, la guérison que j'ai eue, puis tout. Puis il dit, pendant que je leur racontais ça, ça s'est mal picoté partout sur le corps, puis il y avait des frissons. Fait que là, il dit, eux autres, ils m'ont dit que tu devais avoir une puissance que tu me transmises, puis là, je la traîne avec moi, puis quand j'arrive là-bas, ça tombe sur eux autres. Fait que là, j'ai dit, bah, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais j'ai dit, j'ai pas commencé à mépriser qu'est-ce qu'eux autres y avaient dit, mais ça m'a rouvert une porte pour être capable d'y témoigner. Puis, je veux pas catégoriser les gens, là, mais je veux que vous compreniez ça, c'est le genre de gars que j'aurais jamais pu mettre une semence dans sa vie naturellement. OK? Si je serais arrivé et j'y aurais dit, mon ami, Jésus t'aime, est-ce que tu voudrais qu'on parle d'un livre qui s'appelle La Bible ensemble? Je peux vous garantir à 99% qu'il m'aurait reviré. Mais là, parce que je ne l'ai pas approché pour ça, j'ai manifesté la puissance de Dieu. N'importe qui est malade, généralement, veut être guéri, même s'il n'y croit pas. Il a été guéri, là, il était ouvert et c'est lui qui me demandait. Là, vous ne forcez pas l'Évangile dans quelqu'un, c'est lui qui a une faim et il a une soif, même si sa foi n'est peut-être pas rendue et qu'il ne croit pas, il a des questionnements et il est ébranlé. Puis là, vous pouvez semer dans sa vie. Ça, c'était la semaine d'après, là. Il s'en souvenait encore. Fait que j'ai commencé à y parler, puis là, il me dit, moi, je me suis fait opérer quand j'étais jeune, puis ils m'ont enlevé les végétaux, c'est comme les canaux qui relient la gorge avec le nez, puis j'ai toujours eu des problèmes suite à ça. Il dit, je fais toujours comme, puis j'ai de la misère à avaler, puis des fois, j'ai de la misère à respirer. Fait que là, il était un peu mal à l'aise, puis il dit, tu peux-tu m'aider pour ça, tu sais? Fait que j'ai dit, pas de problème. Et, tu sais, les gens, on dirait qu'ils sont un peu sur la crainte parce qu'ils pensent que vous allez vous mettre à genoux, là, puis là, vous allez faire les wines d'eau bénite, puis ça va être le gros événement, puis ils regardent autour d'eux autres, puis ils savent pas parce que souvent, il y a une mauvaise réputation sur les chrétiens, je vous le dis, là. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites au nom de Dieu que Jésus avait rien à voir là-dedans, puis là, il y a une image qui est salie qu'il faut restaurer. Fait que j'ai dit, donne-moi ta main. Comment la gorge, je ne mettrai pas ma main sur ta gorge, là. Donne-moi ta main, je vais prier pour toi, tout simplement. Fait que, il me donne sa main, Père, dans le nom de Jésus, je commande sa gorge à être restaurée complètement maintenant. Quelques secondes, il me regarde, il dit, waouh. Il dit, j'ai senti un coup dans ma gorge, puis un mouton qui a descendu. C'est le même Dieu de la semaine d'avant, Dieu n'a pas changé, là. Dieu a commencé à travailler dans sa vie, puis si on est disponible, il veut travailler encore. Puis là, comme je vous ai dit, c'est pas de catégoriser la personne, mais si vous avez un peu l'image du genre de personne que c'est une personne qui ne se serait pas rouvert autrement. Là. Puis là, c'est lui qui voulait en savoir plus. Il dit, ma blonde m'a laissé dernièrement, puis il dit, elle me dit que je n'étais pas un homme heureux. Puis il dit, je comprends pas. Il dit, j'ai de l'argent, il dit, j'ai des charges, j'ai une bonne job, j'ai une grosse maison, j'ai des amis, il dit, j'ai tout pour être heureux. Il dit, je comprends pas. Puis là, j'avais des portes pour y témoigner. Puis j'ai même été capable d'y parler du domaine des démons, puis tout ça. Puis c'est lui qui voulait en savoir. Il était ouvert, là. Puis il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, c'est vraiment cool. Puis j'étais comme le premier chrétien qui était capable de manifester la foi qu'il avait, qui était capable de backer. Puis là, je dis pas ça parce que je suis extraordinaire. Là, ça, c'est disponible pour chacun de nous. Tout ce que ça prend, c'est de l'obéissance. Puis que ça marche, que ça marche pas, on continue. Puis là, j'ai été capable de mettre une semence dans sa vie, puis c'est lui qui me demandait pour en savoir plus, puis il a pris mon nom, puis il dit, j'ai plein d'amis qui ont mal à toutes sortes de places, puis il dit, je voudrais les mettre en contact avec toi. Puis là, on avait encore un court laps de temps parce que c'était un samedi, fait que j'ai dit, parfait, j'y ai laissé mon nom. Puis En passant, pendant que j'étais en train de prier pour lui, Marie était avec un autre frère dans une boutique où ils vendent des cigarettes électroniques. Pas parce qu'elle est allée pour s'acheter des cigarettes, là, parce qu'il y a un jeune homme qui travaille dans la boutique qui a commencé à venir à la jeunesse avec nous, puis est allée pour y témoigner. Puis pendant qu'elle était là, la fille qui travaillait avec lui dans la boutique est tombée sur la tête à l'âge de 9 mois, puis elle avait une tombrose dans son dos, puis elle était guérie. Donc, ça n'a pas rapport avec moi, Marie, ça faisait peut-être une semaine ou deux qu'elle avait été activée puis qu'elle avait commencé à avoir des guérisons, là. Donc, pendant que le jeune homme était guéri de sa gorge, l'autre était guéri de son dos. Saint-Esprit peut faire deux choses en même temps, là. Vous n'allez pas le loader, là. Faut pas avoir peur. Fait que là, quand j'ai quitté le jeune homme qui avait été guéri pour sa gorge puis tout, j'ai donné mon nom, puis il dit, j'ai une de mes amies qui travaille ici dans un jardin, une parfumerie, puis j'y ai parlé de vous autres, puis il dit, elle a des problèmes dans ses jambes. Dans ses jambes ou dans son dos? Dans les jambes. Fait que j'ai dit, parfait, donne-nous son nom, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, moi, j'étais déjà en retard pour le... C'est pas ma plus grande qualité, la ponctualité. Je suis souvent en retard. Fait que priez pour moi, amen. Fait que j'ai dit, parfait, puis là, je suis parti. Puis là, moi, j'étais serré pour le travail, mais Marie a dit, ben je dois-tu y aller tout seul? Parce que c'était nouveau, là, pour elle. Ça faisait peut-être... Ça faisait longtemps qu'elle me suivait, mais... Tu sais, souvent, l'ennemi, sa meilleure façon, c'est de dire, ben, t'as pas ce qu'il faut, t'as pas le don de guérison, t'as pas ci, t'as pas ça, puis c'est absolument pas rapport. La guérison, c'est un signe qui accompagne ceux qui auront cru. Donc, si vous croyez, ça vous accompagne, vous n'avez pas besoin d'un don de plus. Donc, mais c'est ça. Moi, j'étais en retard pour le travail, ben, j'ai dit, vas-y, c'est correct. Puis Marie est allée dans la boutique, la fille était guérie, l'autre fille qui travaillait là était guérie, la puissance de Dieu est tombée dans leurs jambes, ça a commencé à le picoter. Puis ça a été un autre témoignage. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi, tout simplement. Amen. Donc, ça, c'est juste quelques témoignages. Je ne vais pas vous tenir ici. Joël m'a dit une heure et demie, mais je peux pas. Si je couvre tous les témoignages, on ne sortira pas. C'est pour ça que j'essaie de vous donner ceux qui n'ont pas été filmés. Mais, bon. Dieu est fidèle, puis tout ce qu'il nous demande, c'est d'obéir, tout simplement. Ça, c'est juste quelques témoignages que je vous donne, puis j'en rajoute pas, là. Je peux vous le garantir. Marie était là avec beaucoup des fois avec moi. Mon frère Assad, il était là aussi. Puis c'est vraiment la puissance de Dieu. C'est miraculeux, c'est la guérison, c'est surnaturel. Ça existe encore aujourd'hui. C'est disponible pour chacun de nous. OK? Puis la guérison, c'est une des façons, c'est une des choses qui nous est disponible. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai la science infuse, j'ai tout saisi et que je marche pleinement dans tout ça. Moi, mon désir, c'est d'aider le corps de Christ dans ce que j'ai réussi à saisir, puis je progresse encore là-dedans. Évidemment, dans les prochaines semaines, le pasteur m'a dit que vous allez recevoir des formations, des enseignements sur l'évangélisation prophétique aussi. Ça, c'est un autre aspect, puis c'est le même Saint-Esprit, c'est tous des dons de l'Esprit. Que ce soit la guérison, la délivrance, c'est la puissance de Dieu qui est en vous, puis ça se manifeste de n'importe quelle forme. Tout ce qui sert à mettre une semence dans la vie des gens, ben c'est ça le but, c'est pour ça qu'on fait ça, puis c'est pour ça que Dieu nous a équipés comme ça. Dieu aurait pu nous envoyer en mission, puis nous dire aller par toute la terre, puis nous laisser battre de l'air comme ça, pas de puissance. Puis là, on se retrouverait comme toutes les autres religions à faire des débats de doctrine. Mais la seule différence avec la chrétienté, c'est qu'on a une puissance qu'aucune autre religion peut avoir. Mais depuis trop longtemps, l'Église essaie de convertir les gens avec des paroles sans utiliser cette puissance-là. Mais voyez-vous, aujourd'hui, il y a des millions de religions dans le monde, puis les gens choisissent celles qui vont mieux avec leurs valeurs, tout simplement. Donc, si vous n'aurez jamais un argument assez convaincant pour faire changer leur façon de penser, parce qu'ils vont juste vouloir vous tenir tête, tout simplement. Mais si vous êtes capable de manifester la puissance de Dieu, ils font ce qu'ils veulent avec. Ça leur appartient. Mais ça, c'est réel. Puis c'est une semence qui va être plus forte dans leur vie, comme j'ai dit tantôt, que n'importe quel pamphlet. Il faut comprendre que notre travail, ce n'est pas d'amener les gens à Jésus, c'est de leur amener Jésus. Si vous essayez de les amener à Jésus, ils ont le choix de vous refuser puis de rejeter ce que vous dites. Puis ça, c'est leur opinion, elle a autant de valeur que la vôtre, puis c'est leur choix. Mais si vous leur amenez Jésus, ils ne peuvent pas changer ce que vous avez. Qu'ils l'acceptent, qu'ils ne l'acceptent pas, vous pouvez juste leur donner ce qu'ils sont prêts à prendre. Vous ne maudissez pas la personne. Si elle n'est pas ouverte là, ça se peut qu'elle soit ouverte dans une semaine, deux semaines, trois semaines, six mois, un an, on ne le sait pas. Notre travail, c'est juste d'aller puis d'obéir, tout simplement. J'aimerais ça vous partager un autre témoignage. J'essaie de réfléchir vite, vite, là, parce qu'il y en a beaucoup. Fait que. Question? Ouais, allez-y. Ah ouais? OK. Ben, on va attendre pour après, dans le fond. Pourquoi qu'on n'a pas tout filmé? Ouais, bien évidemment, c'est sûr qu'on n'envahit pas les gens, là. Quand c'est pas tous les gens qui acceptent d'être filmés, premièrement, fait qu'on peut pas les forcer. Nous, on leur demande s'ils acceptent. Puis quand ils acceptent, des fois, on leur demande, ils peuvent être filmés, mais qu'on coupe le visage. On respecte ça parce qu'on n'est pas là pour faire un show. C'est pas ça le but. La raison pourquoi qu'on filme ça, c'est pas pour vous montrer que je suis un grand évangéliste de guérison. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, on n'a même pas touché au ministère, là. La guérison, ça fait partie de la vie chrétienne normale. C'est une puissance que chaque enfant de Dieu a. La raison pourquoi qu'on filme ça, c'est qu'aujourd'hui, on est béni. On a une technologie que les apôtres n'avaient pas, qui peut être néfaste, mais si elle est bien utilisée, elle peut être bonne. Puis moi, j'ai vraiment cherché Dieu pour savoir la volonté de Dieu. Puis c'est pas parce que les autres le font que je dois le faire aussi. Mais dans mon cœur, c'est comme ça que ça s'est déclenché pour moi. C'est comme ça que ça s'est déclenché pour mon frère Assad. C'est quand on a vu des vidéos puis qu'on a vu la vie de Jésus être modelée à travers des gens que le déclic s'est fait en nous. Parce que quand on est chrétien, la majorité des chrétiens évangéliques, on croit tous dans la guérison. On a tous déjà entendu parler, mais c'est toujours en Afrique, au Japon, aux États-Unis, dans des réveils. Puis on dirait qu'on y croit, mais c'est un peu comme une légende. Puis quand on le voit manifester, bien là, notre autre excuse, c'est « Ah, mais ça, c'est des hommes de Dieu qui ont l'onction. » Parce qu'on est excellent dans l'Église pour trouver des excuses, hein? Je vous le dis, l'Église est arrivée avec mille et une raisons pourquoi la guérison ne fonctionnerait pas, pourquoi la puissance de Dieu ne se manifesterait pas. Mais la parole de Dieu est simple, puis quand on la lit pour ce qu'elle est, puis qu'on obéit dessus, tant que ça marche, c'est pas la parole de Dieu qui fait défaut, là. Si notre expérience n'est pas en accord avec la parole, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Au contraire, il faut pousser encore plus puis chercher la face de Dieu puis essayer de comprendre ce qu'on n'a pas saisi pour qu'on arrive tout à la stature parfaite de Christ. C'est ça le plan de Dieu puis c'est ça le but des ministères aussi dans l'Église. C'est de nous former, nous façonner pour qu'on arrive à la stature de Christ. Et puis, c'est ça. Évidemment, on ne peut pas filmer tout le monde. On filme les gens qui acceptent puis on a dû progresser là-dedans aussi parce qu'au début, tu es assez énervé, puis le but, c'est que la personne soit guérie. C'est pas de faire une vidéo. Fait qu'il faut que tu réussisses à rentrer ça dans le système aussi. Puis, c'est ça. Au début, c'était croche un peu. Il n'y avait pas de son, mais c'est pas grave. On progresse. Puis, comme j'ai dit, le but, c'est pas de faire un show, c'est de pouvoir montrer aux gens que. De pouvoir amener ça aux gens d'une manière assez simple qui manque d'excuses pour pas le faire. C'est-tu bon, dit comme ça? Pour que les gens puissent dire. Si lui est capable de faire ça, certainement que je suis capable et je vais faire mieux. Il faut que ça soit rendu à ce point-là. L'idée, c'est de créer une jalousie dans le cœur des gens, pas une mauvaise jalousie, une sainte jalousie, un feu, quelque chose qui stimule, qui nous dit « J'ai manqué ça, je vois que si lui est capable de le faire, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, puis c'est pas parce que je ne suis pas bon, c'est pas parce que lui est meilleur que moi, c'est parce qu'il y a un aspect que je n'ai pas compris, puis si lui il a réussi à le faire puis que Dieu fait exception de personne. » Je vais faire ce qu'il faut. Si je ne suis pas capable d'y aller tout seul, j'ai peur ou j'ai des questionnements, je vais aller chercher des réponses. Puis je vais y aller avec quelqu'un qui est prêt, qui est disponible pour être capable de m'aider à casser la glace. Puis je vais persévérer jusqu'à temps que ça marche. Puis c'est ça le but, c'est ça l'idée derrière les vidéos. C'est comme ça que ça a déclenché pour nous. Quand vous voyez, par exemple, que vous pouvez voir des vidéos où une mère de famille arrive là avec ses enfants, puis elle vient d'un milieu évangélique qui ne croyait même pas dans la guérison, puis elle est allée là juste pour leur prouver qu'il y avait tort. Ils la prennent, ils l'amènent dans la rue, elle pose ses mains sur quelqu'un, puis elle est plus surpris que la personne malade, que la personne soit guérie. Là, vous vous dites, je manque un peu d'excuses, là. Si ça a marché pour elle, c'est pas ce qu'on appelle typiquement une femme de Dieu ou un homme de Dieu avec un grand ministère qui est vraiment connu. Même elle est surprise que ça allait marcher. Bien, si ça a marché pour elle, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis c'est même au point de pousser les gens pour que les gens ils viennent à écouter assez de vidéos puis qu'ils viennent à prendre contact avec nous pour savoir à où la pogne. Pour qu'ils puissent réaliser qu'il n'y en a pas, c'est aussi simple que ça. C'est un aspect de la vie chrétienne que les gens, depuis beaucoup d'années, ont fermé les yeux dessus. Puis pourtant, quand on commence à s'ouvrir les yeux là-dessus, c'est d'un couvert à l'autre de la parole. Vous trouverez très rarement un endroit dans la parole où Jésus, les apôtres et les disciples qui ont suivi sont allés annoncer la parole sans manifester la puissance de Dieu. il y avait toujours une manifestation de puissance, que ce soit une guérison, que ce soit une délivrance, que ce soit une parole prophétique, que ce soit une parole de connaissance ou quoi que ce soit. Il y a toujours une manifestation parce que la Bible nous dit que Dieu confirmait sa parole avec beaucoup de signes, de prodiges et des miracles par les mains des apôtres. Les signes, les prodiges et des miracles, c'est pour confirmer aux gens que ce qu'on dit est vrai, qu'on a la vérité, que ce n'est pas une religion de plus, ce n'est pas des principes de vie, ce n'est pas un concept. On ne fait pas ça pour changer la vie des gens indirectement. Évidemment, quand leur vie est transformée, c'est sûr que leur vie change, mais le but, c'est de leur montrer que ce qu'on a est vrai puis qu'ils l'acceptent, qu'ils ne l'acceptent pas, ils ne peuvent pas changer ce que nous, on a. Tout simplement, puis on manifeste la puissance de Dieu comme ça. Donc, ça répond un petit peu à la question pourquoi que tout n'est pas filmé. Puis, évidemment, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas tous qui sont guéris. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Non. Dieu veut que tous soient guéris. La maladie, c'est de la mort en petite dose, c'est tout. Puis, il n'y a pas de mort en Jésus, il n'y a pas de maladie au ciel. Puis, Jésus, quand il est venu à la croix, il a versé son sang pour nos maladies, pour nos péchés, mais il a été meurtri avant. Hein? Avant que le sang coule, il a été meurtri pour nos maladies. Donc, si on remet ça en question, puis qu'on dit qu'il y a des maladies qui peuvent être dans des personnes à cause qu'ils ont besoin de pardon, à cause qu'ils ont une malédiction ancestrale, si vous remettez en question les meurtrissures de Jésus, bien, vous devez remettre en question son sang aussi. Est-ce que le sang de Jésus est suffisant pour pardonner n'importe quelle personne sur la planète Terre qui se repent? Jésus, c'est un sacrifice, mais il a eu deux fonctions. Il a été meurtri pour nos maladies, puis il a versé son sang pour les péchés. Donc, il faut faire attention quand on remet en question puis arrêter de trouver des excuses. Parce que la Bible, on doit la lire pour la simplicité qu'elle a, puis souvent, la majorité des doctrines qu'on a est basée sur notre expérience puis pas sur la parole. On ne fait pas ça mal intentionnément, mais souvent, on a pu perdre quelqu'un dans notre famille, on a pu prier pour quelqu'un sincèrement avec toute la foi qu'on avait, puis on n'a pas vu de manifestation. On a vu des hommes de Dieu prier qui ont des résultats, puis on n'a pas vu de manifestation, fait qu'on arrive avec des excuses à pourquoi ça n'a pas marché. Mais voyez-vous, on ne comprendra jamais tout le pourquoi, mais ça ne change pas la parole de Dieu. Vous pouvez demander, moi, je ne suis pas ici parce que je veux me narguer d'être meilleur que qui que ce soit. Là, c'est nouveau pour moi, puis je vous apporte juste ce que j'ai. Mais vous pouvez vous demander à des hommes de Dieu comme Todd White qui font ça depuis des années, puis ils vont vous dire que le doute est tout le temps là, parce que c'est le terrain d'action de l'ennemi. Le doute n'arrête pas, il est tout le temps là, que vous allez prier pour quelqu'un, vous allez être en feu, vous allez réciter Marc 16, vous allez dire « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris. » Puis au moment où vous allez arriver pour approcher vers la personne, ça va vous dire « Mais s'il ne se lève pas, tu auras l'air de quoi? » Vous ne pouvez pas arrêter ces pensées-là de venir parce que c'est naturel, vous avez votre cerveau puis il est fonctionnel. Il n'y a personne qui est légume ici, je pense. Votre cerveau, il est fonctionnel, puis c'est le terrain d'action de l'ennemi. Satan ne peut pas enlever la puissance que vous avez. Tout ce qu'il peut faire, c'est réussir à tordre vos pensées. Il faut que vous compreniez que la puissance de Dieu qui se manifeste à travers vous est dirigée par ça. Si vos pensées, l'incrédulité rentre, votre foi est là quand même, mais elle ne pourra pas être active. Si vous êtes capable de vider vos pensées, même si ces pensées-là viennent, vous n'êtes pas encore dans l'incrédulité. Là. L'incrédulité, ça veut dire rebrousser chemin, reculer. Là, vous laissez la pensée rentrer. Mais quand la pensée vient puis vous continuez quand même, vous n'êtes pas dans l'incrédulité puis votre foi est fonctionnelle quand même. Donc, je vous dis ça comme ça. Ceux qui pensent qu'à un moment donné, tu arrives à un point où tu es dirigé surnaturellement, tu passes somnambule, tu vas prier pour le monde tout seul. Non, vous êtes en contrôle des dons de l'esprit. C'est à nous de le faire, c'est que ce soit le parler en langue, la prophétie, la délivrance, la guérison. Vous êtes en contrôle de ça. Ça ne tombe pas sur vous soudainement. Il y a des moments que c'est plus propice, par exemple, quand il y a beaucoup de guérisons, que mettons qu'on sort dans les rues puis qu'il y a beaucoup de guérisons qui se mettent à se produire, là, le royaume de Dieu se dégage puis ça devient plus propice. Tu arrives au point où tu n'as même plus besoin de prier pour les gens. Juste la présence autour des, juste la présence de Dieu autour des gens, ils sont guéris comme ça. Mais ça, on le voit souvent dans des réunions évangéliques, quand la puissance de Dieu est tellement forte, les gens sont guéris dans l'assemblée comme ça, sans même qu'on ait besoin de prier. Mais on le voit très peu à l'extérieur des murs de l'Église, parce qu'évidemment, ce qui se passe à l'extérieur, c'est jamais pour donner la gloire à Dieu, donc la présence de Dieu n'est pas manifestée. Puis, bien, la majorité du corps de Christ ne le manifeste pas non plus, de plus en plus, mais pendant beaucoup d'années, c'était confiné à l'Église, donc la présence de Dieu ne pouvait pas se manifester, puis c'est des choses qui ne pouvaient pas arriver. Mais je peux vous dire, pour l'avoir vu moi aussi, que quand il commence à avoir beaucoup de guérisons, bien, ça devient de plus en plus facile, puis tu arrives au point où tu n'as même plus besoin de prier. La présence de Dieu est tellement forte que les gens sont guéris. Pourquoi? Parce que c'est le royaume de Dieu qui est dégagé, puis il n'y a aucune maladie dans le royaume de Dieu. Il n'y a aucun démon dans le royaume de Dieu. C'est la même chose s'il y a quelqu'un qui est oppressé par Satan ou qui est même possédé. Là, ça va être plus drastique. Quand la présence de Dieu est forte, ça va réagir. Vous pouvez voir dans la vie de Jésus, Jésus était tellement confiant dans son identité puis dans qui il était qu'il n'était pas obligé de chercher les démons. Quand il y avait une personne qui était près de Jésus qui avait un démon, elle se manifestait. Puis elle ne se lançait pas contre Jésus, elle suppliait Jésus. OK? Les démons connaissent Jésus, puis bien souvent, ils ont un plus grand respect envers Jésus que beaucoup d'êtres humains, puis beaucoup de chrétiens même. Les démons, puis Satan lui-même, savent qui vous êtes, puis ils savent la puissance que vous avez. Puis ils savent que si vous commencez à la manifester, c'est très dangereux pour eux autres. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tordre vos pensées, puis amener de l'incrédulité pour vous tenir dans le doute. Ils sont bien plus conscients que nous de la puissance qu'on a. Ça, c'est malheureux. Quand on commence à réaliser la puissance qu'on a, c'est pas dans le but d'être orgueilleux, là. Ça, c'est un autre point. J'en ai parlé quand j'ai prêché dimanche, là. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais le corps de Christ et les chrétiens en général, depuis beaucoup d'années, fonctionnent dans une fausse notion d'humilité. Pour beaucoup de chrétiens, être humble, c'est de se rabaisser tout le temps et de se voir petit, pécheur, faible. Mais l'humilité, c'est simplement de se voir avec la perspective que Dieu a de nous. Dieu vous voit comme ses fils et ses filles bien-aimés, vous êtes saints. Maintenant, ce n'est pas quand vous allez rentrer au ciel, vous avez été lavé de vos péchés, vous êtes béni de toute bénédiction, vous êtes pleinement aimé de votre Père céleste. Ça, c'est de l'humilité, vous n'êtes pas dans l'orgueil, là. Ce n'est pas à cause qu'on a fait quelque chose de bien, c'est Dieu qui a décidé ça pour nous. Quand on est né nouveau, on a été restauré à l'homme qu'on était avant la chute. On a été restauré comme Adam et Ève avant que le péché rentre dans le monde puis vienne les déformer. Jésus n'est pas venu pour nous amener au ciel, il est venu pour nous amener au Père, restaurer notre relation avec le Père. Évidemment, le Père est au ciel, donc je ne veux pas casser péter votre bulle, on s'en va au ciel. Mais l'idée, ce n'était pas de nous amener au ciel, c'était de restaurer notre relation avec le Père. C'est ça qui est important. Le ciel, ça, on va y entrer pleinement après notre mort, mais notre relation avec notre Père céleste, c'est ici que ça nous affecte, puis c'est maintenant qu'on a besoin. Puis si on ne comprend pas cette notion-là, puis qu'on reste dans une notion de fausse humilité, puis de se sentir tout le temps faible, pas assez bon pour faire quoi que ce soit, bien ça, c'est vos pensées, puis vos pensées dirigent votre foi. Donc, même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vos pensées sont tordues, vous ne produirez pas la puissance de Dieu. Quand vous allez arriver devant quelqu'un, vous allez toujours finir par trouver une raison ou une excuse pourquoi cette personne-là ne sera pas guérie. Comme je vous ai dit tantôt, il n'y en a aucune qui est valable avec Jésus. OK? Maintenant, si la personne n'est pas guérie, est-ce qu'il faut se rabattre puis il faut se décourager? Non. Quand la personne n'est pas guérie, ce n'est pas nécessairement qu'elle n'est pas guérie premièrement. Le but, c'est d'avoir une manifestation concrète là, mais si elle ne l'a pas là, ça ne l'empêche pas qu'elle peut l'avoir le soir ou le lendemain. Puis ça n'empêche pas que c'est pas qu'il ne s'est rien passé. Il se passe toujours quelque chose dans le domaine spirituel. Mais si nous, on ne voit pas avec nos yeux, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Si on ne réussit pas à avoir une percée, comme j'ai dit, c'est pas de se rabaisser puis d'abandonner à cause de ça. Au contraire, c'est de chercher Dieu encore plus puis d'essayer de changer les aspects de notre vie où il y a de l'incrédulité puis de dire à Dieu, chaque aspect de ma vie où tu n'es pas pleinement, je te demande de venir la remplir ou de la retrancher de ma vie. Point. S'il y a un aspect de votre vie où Dieu n'est pas, il faut que ça parte. Puis si vous n'êtes pas capable par vos propres forces, bien, c'est à ça que ça sert la nouvelle naissance. Vous avez l'Esprit de Dieu maintenant pour vous aider là-dedans. Donc, question peut-être?
Juste pour nos internautes, ce qu'on va faire, on va avoir une période de questions parce que je suis certain qu'il y en a plusieurs ici. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des questions ce soir? Moi, j'en ai une et ce que je vais te demander, quand tu entends une question, répète la question pour que nos internautes puissent l'entendre. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un ici, au moins une, qui se dirait « Ah, mais ça a l'air super cool, là, mais moi, je suis trop gêné. » Puis même si on connaît le verset dans la Bible qui nous dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, de force, d'amour et de sagesse, il y en a qui vont dire « Ouais, mais comment qu'on fait? Moi, je suis pris avec la gêne. » Ça, ça va être la première question pour toi. Puis parce que toi, je t'ai connu avant que tu fasses ça. Puis est-ce que tu as toujours été audacieux, Jonathan? Ou est-ce que tu as été réservé dans une partie de ta vie? Je te laisse répondre.
Bon, est-ce qu'il faut que je répète la question, là, ou c'est correct? Bon, pour toutes les gens qui diraient qu'ils sont gênés ou quoi que ce soit, bon. Premièrement, ben pour mon expérience personnelle que Joël me demandait, c'est pas que Joël m'a connu depuis que je suis jeune, puis j'avais l'air de quelqu'un réservé, mais comme j'ai partagé un petit peu mon témoignage tantôt, c'est pas nécessairement que j'étais réservé, c'est que vu que j'avais une façon de vivre dans l'Église puis une façon de vivre en dehors de l'Église, la meilleure façon de ne pas commettre d'erreur dans l'Église, c'était de rester réservé. Je ne sais pas si ça éclaire un peu certaines questions. Je suis pas quelqu'un, même si pour beaucoup ça n'a pas paru, je suis pas quelqu'un qui était gêné ou réservé ou quoi que ce soit, mais je vous dirais que quand j'ai vraiment donné ma vie à Christ, comme j'ai dit tantôt, je suis long à me décider, mais quand je me décide pour quelque chose, il n'y a rien pour m'arrêter. Donc, je voulais vraiment servir Dieu. Je n'avais pas la connaissance de ce que je fais aujourd'hui, mais j'avais un cœur sincère pour Dieu, puis c'est peut-être la même chose pour beaucoup de personnes. Évidemment, quand tu es vraiment né de nouveau, ça devrait l'être. Ton cœur, c'est de servir Dieu puis de manifester la puissance de Dieu, mais souvent, à cause des enseignements que tu as reçus ou de ce que tu as vu, bien, tu ne sais pas comment le faire, puis tu as beaucoup d'excuses à pourquoi. Bon, pour ceux maintenant qui seraient plus timides ou qui seraient gênés, ou même si vous n'êtes pas quelqu'un nécessairement de gêné, quand ça vient le temps de parler de Jésus, c'est comme, on dirait, plus fort, puis Satan se sert de ça pour taper là-dessus, puis tout ce qui te vient en tête, c'est qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas. Puis évidemment, si ça ne marche pas, ben là, tu dis, bon, ben ça y est, j'ai pas ce qu'il faut, puis tu abandonnes. Si tu es quelqu'un, par exemple, là, je ne condamne pas personne, là. Si tu es quelqu'un qui n'a pas cette détermination-là, puis tu te dis « je l'ai fait une fois » ou « j'ai vécu telle ou telle expérience, ça n'a pas marché », l'idée que beaucoup de gens font, puis que nous, disons, l'organisation que j'ai fondée, la chaîne YouTube puis la page Facebook, c'est dans ce but-là, c'est pour ça qu'on fait les vidéos aussi, c'est pour allumer quelque chose dans le cœur des gens, puis quitte à ce qu'ils prennent contact avec nous juste pour trouver la pogne, puis savoir c'est quoi l'affaire, puis qu'ils puissent venir avec nous pour voir vraiment qu'il n'y a pas vraiment de pogne, c'est vraiment la parole de Dieu. Puis c'est vraiment bizarre qu'on cherche à se demander où la pogne, parce que c'est la parole de Dieu, puis on est chrétien, on devrait simplement la croire pour ce qu'elle est. Mais souvent, les gens ont besoin de le voir en personne. Mais c'est ça, nous, le but des vidéos, puis le but, disons, de l'organisation, c'est ça, c'est que si les gens, ils veulent faire le pas, bien, nous, on est là pour les aider. Pas qu'on a quelque chose de mieux qu'eux autres. Évidemment, on a une expérience que beaucoup n'auront pas parce qu'on l'a déjà faite, mais on a encore à apprendre, puis on apprend toujours. Quand on va évangéliser, c'est un peu comme aller à la pêche, là. Quand vous allez à la pêche, vous lancez votre hameçon dans l'eau. Si vous lancez dans la forêt, vous ne pognerez pas de poisson. Vous lancez votre hameçon dans l'eau, mais vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'eau. Puis vous pouvez pêcher toute la journée dans le même spot, vous ne pognerez rien, et retourner le lendemain au même spot, puis vous allez remplir les filets. C'est pareil quand on va évangéliser. Vous pouvez passer toute la journée, puis il n'y aura pas gros de manifestation, puis ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Les gens sont là. Si on veut voir, si on veut aller à la pêche, il faut lancer notre ligne à l'eau. Donc, si on veut mettre des semences dans la vie des gens, il faut y aller, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'eau. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. On sait pas. Vous pouvez être à un endroit puis penser que cet endroit-là est fermé parce que les gens ne répondent pas, puis le lendemain, ça se met à répondre. Donc, ça n'a pas vraiment rapport. Qu'est-ce qui compte, c'est d'y aller puis de le faire. Puis, les gens qui savent pas où commencer, puis qui sont gênés, qui sont timides, qui savent pas l'approche, comme j'ai dit, on grandit toujours là-dedans. Là. Puis, il n'y a pas de, comme qu'on dirait en anglais, « by the book », parce que chaque personne est différente. Puis vous allez vous rendre compte, si vous commencez à le faire, que quand vous approchez la personne puis vous commencez à vraiment l'aimer, pas pour la convertir, mais vous êtes vraiment là pour l'aimer puis un cœur pour l'aider, avant même que vous vous en rendiez compte, vous allez voir que vous ne vous souciez plus des résultats, vous ne vous souciez plus des regards des gens autour, vous l'aimez simplement puis vous voulez la bénir. Puis le Saint-Esprit fait ressortir des choses en vous. Vous ne savez même pas qu'ils sont en vous, puis ça commence à sortir tout seul, puis vous déversez dans la vie des gens. Parce que c'est en vous. Mais le Saint-Esprit, il se manifeste quand il est activé, puis que vous lui donnez la chance. Je ne vous dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est assez rare que vous allez être chez vous sur votre divan, puis que vous allez recevoir une parole de connaissance, puis une prophétie pour quelqu'un. Ça peut arriver, je ne vous dis pas que ça n'arrivera pas. Mais si vous voulez que le Saint-Esprit se manifeste, bien, il faut que vous le sollicitiez. Puis quand vous allez évangéliser puis que vous êtes sur le terrain, vous êtes là pour ça. Même si vous êtes effrayé puis vous ne savez pas par où commencer, vous avez déjà fait un pas de foi puis vous êtes là. Vous pouvez y aller la première journée, être effrayé, parler à personne puis dire, comme on dit en anglais, de choquer puis rien faire, mais vous êtes là. Vous allez retourner chez vous puis le lendemain, vous allez faire un pas de plus puis ça peut vous prendre 3 jours à aborder une personne. Mais si vous abandonnez pas, puis n'importe qui le fait va vous dire la même chose, abandonnez pas. Si Todd White aurait abandonné avant les 1000 personnes qui ont prié, on n'aurait aucun des miracles qu'on a aujourd'hui et qui a été le modèle pour des milliers de personnes à travers le monde. Donc, c'est ça. Toutes les gens qui sont gênés et que des fois, ils ont pas le petit kick qui manque pour y aller, bien, c'est pour ça qu'on appelle ça « kickstarter les gens » et c'est pour ça qu'on est là. Nous, quand les gens viennent avec nous, bien, ils se mettent un peu derrière nous et ils se disent « si ça ne marche pas, c'est de leur faute. On n'a rien à voir là-dedans. » C'est ça l'idée. Puis le plus dur, comme je disais, c'est vraiment d'approcher les gens puis de casser la glace. Parce que la guérison, c'est pas nous qui la fait. Évidemment, indirectement, c'est nous qui l'a fait, puis il y a un processus. Si ça ne marche pas, c'est pas de la faute de Dieu, c'est de notre faute, mais on doit progresser là-dedans. Mais nous, on peut donner des indices aux gens, des conseils sur qu'est-ce qui a déclenché pour nous, puis qu'est-ce qui a fait que les résultats se sont manifestés plus, puis c'est toujours dans nos pensées que ça se passe, comme j'ai dit tantôt. Puis, c'est pour ça qu'on est là. Si les gens, ils veulent y aller, ils veulent venir vivre l'expérience, on commence encore. On n'est pas organisé pour faire des kickstarts de 50 personnes. Le plus gros qu'on a fait, c'était 30 ou 40 à Saint-Jean, puis on a fait qu'est-ce qu'on a pu avec qu'est-ce qu'on avait. Mais comme je vous ai dit, on s'est fait sortir tantôt. Mais Dieu était fidèle, puis il y avait des guérisons quand même, puis il y a eu des semences de mis dans la vie des gens. Mais nous, on est pratiquement tout seul là, au Québec qui fait ça. Il y a mon frère Assad à Montréal, puis on le fait de plus en plus, mais... Dans le monde, ça se répand de plus en plus, puis ça se répand à une vitesse folle. Puis il y a des conférences qui s'en viennent cet été, ça va se répandre encore plus. Donc, si vous voulez le faire, je suis pas en train de vous solliciter, là, je réponds à la question. Si vous voulez le faire, sachez que nous, on est là pour ça. On peut y aller avec vous. Puis comme je disais, le plus dur, c'est de casser la glace puis d'aborder la personne. Trouver un malade, c'est pas trop difficile. La société, aujourd'hui, 80% des gens sont malades. Même si vous dites qu'ils ne sont pas, ils sont, ils veulent juste pas vous le dire. Ou c'est pas assez majeur pour que ça vienne à leur esprit. Mais on trouve la personne. Puis une fois qu'on a une personne malade, qu'on l'a abordée, puis qu'elle accepte qu'on prie pour elle, bien, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est prier. Donc là, vous pouvez dire, si ça ne marche pas, c'est de sa faute, tu t'arranges avec lui. Donc, ça l'enlève toute cette pression-là sur les gens. Vous pouvez vous kickstarter toute seule aussi. Comme j'ai dit tantôt, kickstarter, c'est être activé, là. Puis qu'est-ce qu'on conseille aux gens? C'est simplement, si vous avez l'audace de le faire, si vous êtes assez naïf pour obéir à la parole, vous trouvez 3 personnes malades, vous priez au moins 3 fois pour eux autres. Évidemment, s'ils sont guéris avant, vous arrêtez, là. Vous ne forcez pas pour qu'on... Mais exemple, vous abordez quelqu'un dans la rue, puis il n'y a pas de formule magique, comme je vous ai dit, là. Idéalement, c'est de commencer par bonjour, là. Vous ne rentrez pas dans le but de la personne, mais bonjour, comment ça va? J'ai une question pour toi. Par hasard, aurais-tu mal dans ton corps? Il y a des gens que c'est évident, canne, chaise roulante, un membre de cassé, vous avez pas besoin de leur demander. Moi, qu'est-ce que je fais? Je leur dis bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai vu que vous aviez un plâtre ou quoi que ce soit. Fait que là, je peux-tu vous demander qu'est-ce qui s'est passé? Là, les gens, même s'ils ne vous connaissent pas, les gens s'identifient à leur maladie, fait qu'ils sont souvent intéressés de dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, une fois qu'ils vous l'ont raconté, bien là, vous pouvez leur proposer, puis ils peuvent pas vous dire qu'ils sont pas malades ou ils sont un peu pris. Puis comme j'ai dit tantôt, la plupart n'y croient pas. Donc, juste pour vous prouver que vous avez tort, ils vont vous laisser faire. Donc, c'est ça. C'est un peu le but. Puis si vous n'avez pas ce kick-là, cette audace-là au début, bien nous, on est là pour ça, pour amener des gens. Puis l'idée, c'est pas de faire un show de miracle ou de guérison. Puis la guérison, comme j'ai dit, c'est juste une façon de mettre une semence dans la vie des gens puis de progresser. Parce que vous allez voir que quand, si ça vous est jamais arrivé, là, quand il y a une guérison qui se produit à travers de vos mains, ça rouvre vos yeux sur une réalité de l'Évangile puis ça impacte tout le reste de votre vie. Ça a l'air banal, là, mais... Ouais, on va y venir, ce sera pas long. Donc, c'est ça. Nous, on est là pour ça. Puis, quelque chose que je veux spécifier aussi, parce que je veux que les gens... Souvent, les gens, ça bouscule leur doctrine, fait qu'ils sont vite à sauter aux conclusions. Là, la raison pourquoi qu'on va dans les rues comme ça, c'est pour activer les gens. On va dire qu'on sort évangéliser, mais l'évangélisation, c'est la vie d'un chrétien normal, c'est dans notre quotidien. Nous, quand on sort comme ça avec des groupes, par exemple, pour les kickstarter, c'est juste pour, disons, créer des occasions. C'est pas naturel de se promener, d'aller voir tout le monde puis de leur demander s'ils ont mal quelque part. Ça, c'est pas la vie de quelqu'un normal. Mais nous, on fait ça pour susciter des occasions, pour pouvoir starter la personne puis rouvrir les yeux du chrétien ou de la chrétienne pour qu'il voit qu'il a la capacité de faire ça. Même si ça fait 20 ans qu'il est dans l'Église puis qu'il n'y croit pas, il a la capacité de le faire. Mais le but derrière ça, c'est pas qu'on sorte évangéliser puis que le lendemain, on évangélise toute la journée puis que le lendemain, on met des œillères puis on regarde personne. Le but derrière ça, c'est d'activer la personne pour qu'une fois qu'elle a pris confiance en elle puis qu'elle sait qu'elle a cette puissance-là, bien, elle puisse l'appliquer dans son quotidien. Puis c'est là que vous allez voir les plus gros fruits. Parce qu'évidemment, quand on va vers les gens puis qu'on les approche directement, avez-vous mal quelque part? Je vous dis, c'est une semence dans la vie des gens. C'est bon, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est pas là qu'on va voir les plus gros fruits parce que c'est pas quelque chose de naturel. Mais quand vous savez que vous avez cette puissance-là puis que vous êtes activé, bien, vous pouvez l'appliquer dans votre quotidien. Des gens malades, on en rencontre partout. C'est facile d'amener ça sur le sujet, puis quand c'est quelque chose d'évident, bien, c'est encore plus facile. Vous pouvez proposer à la personne, puis là, ça a un impact, puis ça porte du fruit parce que c'est fait dans l'amour. Puis la personne ne s'attend pas à ça. C'est peut-être un ami de longue date que vous avez, puis vous êtes en train de discuter tout bonnement. Puis quand vous savez que vous avez cette puissance-là, bien, vous pouvez l'amener sur le sujet plus facilement. OK, la question, c'est dans le cas d'une personne qui est malade, souvent c'est facile de le voir ou en lui demandant, ça peut être facile, mais dans le cas de, dans le domaine spirituel, si la personne est oppressée fortement, obsédée ou possédée, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, premièrement, il faut être sage parce que là, on n'est pas dans l'église, on est dans la rue. Dans l'église, en général, c'est des choses, bien, on va dire c'est fréquent. C'est pas nécessairement fréquent, mais on est au courant de ces choses-là. Les gens dans la rue, bien, s'ils voient un démon se manifester, ça se peut qu'ils aient peur un peu. Maintenant, comme je vous ai dit, moi, je grandis encore là-dedans. Je prétends pas d'avoir toutes les réponses. Mais comme je vous ai dit comme exemple tantôt, quand on est assez affermi dans notre identité, puis là, je ne suis pas en train de vous dire que je n'ai pas à progresser encore, on doit tout progresser, puis tant qu'on va être sur Terre, on a à progresser. Mais tant qu'on est assez affermi dans notre identité puis qu'on manifeste la puissance de Dieu, les ténèbres vont se manifester beaucoup plus vite. Comme j'ai dit tantôt, quand Jésus était en présence de démons, ça se manifestait. Évidemment, ce n'est pas toujours radical parce que ce n'est pas tout le monde qui est possédé. Mais la plupart des pécheurs sont oppressés. Puis s'ils sont oppressés pendant assez longtemps, ils peuvent devenir obsédés. Mais ils ne sont pas encore possédés. Une possession, c'est quand Satan a la pleine autorité, le démon a la pleine autorité sur la personne. Mais vous pouvez le voir quand vous manifestez assez la puissance de Dieu, vous pouvez le voir comment que la personne va réagir. Si la personne est en colère contre vous quand vous l'avez approché pour l'aider, bien ça, c'est un des signes. Il y a des personnes qui vont choquer. Mon frère Assad, il en a pogné justement à Montréal qui voulait le frapper, je pense, au début. Vous voyez, ça, c'est pas une réaction d'un être humain normal quand vous l'approchez pour l'aider. Puis si vous l'auriez approché pour y vendre une palette de chocolat, il ne serait pas fâché. Mais là, vous l'approchez pour l'aider, pour y parler de Jésus. Il n'y a pas besoin d'avoir vos croyances, mais vous l'approchez s'il est malade pour l'aider, par exemple, puis il choque contre vous, il est en colère, puis vous voyez dans leur regard que ça va changer, bien ça, c'est un des signes. Évidemment, comme j'ai dit, il faut être sage quand on est dans la rue. Puis on ne peut pas commencer à faire des exorcismes sur les personnes, là, mais... Vous pouvez la garder en prière pendant que vous... Généralement, ces personnes-là ne voudront pas rester dans votre présence, dépendamment s'ils sont obsédés ou vraiment possédés. S'ils sont possédés, ça va être radical, vous allez le voir, là. Mais si c'est juste une obsession, vous le sentez dans leur esprit parce que l'esprit qui est en vous puis l'esprit qui est en eux, ça va se confronter. La personne va devenir agressive, elle ne portera pas des fruits du royaume, elle va porter des fruits des ténèbres, elle va être agressive, elle va être contre vous, elle va monter le ton de la voix. Puis ça, c'est des choses, c'est gratuit, là. C'est pas justifié. Vous venez pour l'aider, puis elle est fâchée contre vous. Ça se peut que la personne ait juste une mauvaise journée, il faut faire la différence, là. Si vous arrêtez sur le bord de la rue, quelqu'un qui a fait une crevaison, qui est en soir, puis que vous lui dites « Jésus t'aime, je peux-tu te guérir? » Faut être logique aussi, là. Mais vraiment, quand il y a une manifestation, plus vous allez le faire, plus vous êtes sensible à l'esprit, plus vous allez voir ça. Puis, comme je vous ai dit, j'ai encore à progresser là-dedans. Moi, je n'ai pas fait face à ça, des possessions comme ça. On le voit avec des gens qui sont oppressés ou souvent, on va le voir avec des gens autour. Si vous priez pour un malade puis il y a des gens autour qui sont oppressés, ça, c'est arrivé souvent quand j'étais avec Marie, ça va réagir. Les gens changent de couleur, ils vous fixent, ils vous suivent, ils réagissent d'une manière pas normale. Vous êtes là pour aider les gens, puis eux, ils sont autour de vous, ils vous dévisagent, ils vous regardent, ils sont vraiment en colère. Ça, c'est des gens qui sont oppressés par l'ennemi, ils ne sont pas nécessairement possédés, mais l'ennemi a une certaine emprise sur eux. Mon père a plus d'expérience que moi dans ce niveau-là.
J'ai rencontré beaucoup d'hommes, de femmes qui étaient possédés comme ça. Et puis, la minute que j'ai commencé à parler de Jésus, là, ils ont voulu péter les bretelles. Puis j'ai juste, à mon esprit, dit dans le nom de Jésus, Satan, je te lis, je casse ton pouvoir. Puis à l'instant même, la personne a changé. Dit, ben c'est ce que tu me disais, là. Puis là, on continue. Puis là, si on y veut, on peut lui dire, veux-tu que je prie pour toi? Des fois, t'as un mauvais esprit qui t'oppresse, veux-tu qu'on prie pour toi? Pas nécessaire de dire qu'ils sont possédés. Mais quand on dit dans le nom de Jésus, esprit méchant sort, là, il est obligé de sortir. Parce que toute l'autorité, on l'a. Jésus disait, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Alors, quand tu dis ça devant un homme, une femme qui est oppressée ou qui est obsédée ou qui est possédée, ça va casser le raid-là. Tu peux le faire juste dans ton esprit. Si tu as de la chance, tu as de l'espace, même dans un centre de choses, tu peux le faire. Tu dis au gars, veux-tu que je t'aide? Il va prier pour toi, puis c'est un mauvais esprit, il va sortir. S'il dit oui, tu n'y touches pas. Tu dis, dans le nom de Jésus, sors. Moi, j'ai vu un homme dans l'assemblée une fois, il est arrivé, il avait vidé une église, il avait tout brisé, il avait sauté sept dessus pour les tenir. C'était un petit bonhomme comme moi, là. Mais quand c'est des démons, c'est ça manifeste, hein. Fait que là, il est arrivé un dimanche matin, j'étais après prêcher, il est arrivé dans l'église. Puis après l'assemblée, puis il disait Jésus, puis il était possédé, là. Il avait les mains en l'air, puis il criait Jésus, puis il touchait jusqu'au plafond. Là, je suis avancé à relui, puis il était bouillé de feu. On était tellement habitués, nous autres, le système un peu pentecôtiste, puis tu sais, des évangéliques, on était tellement habitués d'aller lui poser les mains. J'allais pour lui poser les mains, l'esprit m'a dit non, je ne dis pas. J'ai juste mis ma main de main, j'ai dit esprit méchant, sors de cet homme. En disant ça, là, il a crié, puis il a sauté au plafond tout seul, puis il a été délivré complètement. Puis ça a fait un des meilleurs chrétiens de mon assemblée après. Ça a répondu un peu à ta question? Seigneur te bénisse.
Amen. Vous voyez l'expérience qui parle? Un autre point en même temps, tandis qu'on y est, si vous priez pour les malades aussi, il y a beaucoup de maladies qui peuvent être causées par des démons. Maintenant, un conseil que moi je vous donne quand que je prie pour les gens et que je décèle que ça peut être causé par un démon, au lieu de dire démon, je vais parler esprit mauvais. Parce que les gens, démons, ça les affecte plus que le monde spirituel. Ils sont plus ouverts à ça, l'occulte puis tout ça. Fait que c'est juste un petit conseil comme ça. Je vous dis pas que c'est une réponse affirmée et prouvée, mais... Des fois, quand vous dites « esprit », ça peut passer mieux que de dire « démon », parce que là, vous confrontez la personne, c'est comme si elle était mauvaise, tu sais, tout d'un coup. Puis, pour ce qui est des maladies, bien, c'est sûr que quelqu'un qui est tombé sur la glace, qui s'est cassé le bras, ça, c'est une maladie naturelle. Mais quand on parle d'un cancer, du sida ou ces trucs-là, c'est pas des maladies naturelles, donc souvent, c'est causé par des démons. Donc, à ce moment-là, ça se peut que si vous priez pour la maladie puis ça ne part pas, bien, c'est possible que ça soit causé par un démon. Ou ce que j'ai vu aussi, c'est que les symptômes peuvent partir, mais le démon est encore là, donc ça revient. Donc ça peut être décourageant pour les gens des fois parce qu'ils se disent bien, ça n'a pas vraiment marché, c'était plus psychologique. J'ai prié pour des gens qui avaient des maux de tête, des migraines intenses, puis ça a parti instantanément. Puis après qu'on les a quittés, 10-15 minutes après, c'est revenu. Puis Dieu m'a dit que c'était un esprit qui causait ça. La personne avait ça depuis des années. Voyez-vous, les symptômes ont parti, la personne sentait la présence de Dieu, mais vu que c'était causé par un esprit, c'est revenu. Parce que l'esprit s'est caché. Puis si moi, je n'ai pas décelé qu'il était là, bien, les symptômes sont partis. Fait qu'on a pris pour acquis que la personne était correcte, était saine, était en santé. Puis c'est le même principe avec le cancer. Le cancer, c'est un esprit. Donc, les médecins, quand ils disent qu'ils enlèvent le cancer, ils découpent les symptômes, mais ils ne peuvent pas découper l'esprit. Donc, c'est pour ça que souvent, le cancer va sortir à une autre place, à une autre place, à une autre place, puis il va se généraliser. Parce que ce qu'on découpe, c'est les symptômes, mais on n'enlève pas l'esprit. C'est un esprit qu'il faut chasser, simplement. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à tes questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gênez-vous pas. Toutes les questions sont bonnes. Oui, ceux qui ont des besoins, on va prier pour ça. Les questions, pas de questions. Si vous en avez, c'est le temps, là. Oui, bien nous, notre travail, c'est pas de chercher comment c'est rentré. Notre travail, c'est de déceler ce que c'est puis de venir contre. Tout ce qui est des troubles mentaux, des maladies, en majorité, je vous dirais que ça vient par des oppressions, des possessions de l'ennemi. On peut penser, par exemple, à l'épilepsie ou des maladies comme ça. C'est pas des maladies naturelles, c'est pas des maladies de cause naturelle. Aujourd'hui, l'être humain puis les docteurs, la médecine a réglé ça d'une autre manière. On donne des Ritalin à tout le monde ou des antidépresseurs, mais ça ne règle pas le problème. Tout ça, c'est causé par des esprits. Quelqu'un qui est découragé, dépressif, abattu, il n'y a pas ça dans le royaume de Dieu, puis c'est pas les fruits d'un enfant de Dieu. Donc, ça, c'est causé par des esprits, puis c'est le même principe, dans le fond. Si vous ne pouvez pas faire ça, disons, face à face avec la personne, mais vous pouvez le faire, comme mon père a dit tantôt, vous pouvez le faire dans votre esprit, vous pouvez le faire quand vous êtes chez vous, peu importe, mais ce qui compte, c'est qu'on ne soit pas inactif face à ça, puis qu'on ne pense pas que c'est réservé pour chaque enfant de Dieu, on a la charge de faire ça, puis c'est pas de condamner les gens non plus, si vous êtes chrétien depuis des années, puis vous ne l'avez jamais fait, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser des choses, puis grandir. Comme je vous ai dit, moi, j'ai grandi depuis ma naissance dans ce milieu-là, puis mon père a un ministère d'évangéliste, de guérison, puis de délivrance, puis j'en ai vu beaucoup, mais je ne marchais pas là-dedans de cette manière-là. La raison est simple, c'est que pendant longtemps, ça a été réservé au mur de l'Église. Donc, on manifestait la puissance pour les gens qui venaient dans l'Église, puis quand on était à l'extérieur, ben on dirait qu'on mettait la puissance de Dieu sur une tablette, justement parce qu'on on fonctionnait avec la mentalité qu'il fallait que les gens aient la foi pour être guéris. Donc, forcément, les pécheurs, s'ils auraient la foi, ils seraient chrétiens. Donc, on a les mains liées et on ne peut rien faire devant eux autres. Oui, question? Si on peut prier pour quelqu'un via Skype? La question, c'était ça. Est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un via Skype? La réponse, c'est absolument. Pourquoi? Comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de méthode. Dieu regarde à notre foi. Moi, je l'ai fait par téléphone avec des résultats. Je l'ai fait par message texte avec des résultats. Ce qu'il faut comprendre quand on regarde la Bible, c'est qu'il y a des principes qui sont bibliques, mais il y a des événements qui sont, disons, extra-bibliques. C'est-à-dire que le principe est biblique, mais la pratique n'est pas dans la Bible. Ça, on peut le voir, par exemple, avec l'apôtre Pierre qui guérissait avec son ombrage. Jamais Jésus a guéri avec son ombrage, mais l'apôtre Pierre l'a fait, puis ça a marché. Donc, ce qui compte, c'est le motif, puis le résultat. L'apôtre Paul guérissait avec des bouts de linge qui ont touché son corps, mais on ne retrouve pas ça dans la vie de Jésus. Mais pourtant, si Dieu n'aurait pas été d'accord, ben ça n'aurait pas marché. Donc, aujourd'hui, on est béni, on a une technologie, quand elle est bien employée, puis bien utilisée, qui peut être une bénédiction pour la gloire de Dieu, bien, on peut se servir de Skype, on peut se servir de par téléphone, peu importe. Peut-être qu'au début, ça va être plus difficile parce qu'on cherche comment faire, puis si vous ne l'avez jamais fait, bien, c'est pas qu'il y a des techniques, mais souvent, si vous avez été à l'aise, vous avez des résultats avec une façon, bien, vous voulez rester tout le temps avec cette façon-là, que ce soit imposer les mains, ou fait que là, si vous êtes au téléphone ou sur Skype, vous ne savez pas trop comment fonctionner, mais toutes les méthodes fonctionnent, Dieu n'a pas de limite. Jésus l'a fait en envoyant une parole avec le centurion. Dieu va vous donner selon votre foi. OK, je vais vous dire peut-être quelque chose qui va vous ébranler, puis je ne vous dis pas d'évangéliser puis de la guérison, que ça devienne un jeu, mais j'ai vu des gens faire des cercles de guérison au sol avec une craie. Puis ils ont dit, si tu es malade, tu rentres dedans, tu vas être guéri. Les gens rentraient, puis ils étaient guéris. Est-ce qu'on retrouve ça dans la vie de Jésus? Non. Est-ce que c'est de ridiculiser la parole de Dieu? Non, c'est juste pour montrer qu'il n'y a pas de limite. Dieu vous donne selon votre foi.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.